Et bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY.
Je suis toujours le doc. Tu veux que je
fasse
un canon? Tu me regardais en mode
On va s'inventer une musique, je pense que ça va être pas mal. Donc oui, je suis toujours le doc, je suis accompagné de mon ami Néo.
Et oui mon doc, bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, depuis un an. En fait, ça y est, ça va bien.
C'est... D'accord.
Ça faisait un an que je ne m'étais pas senti comme ça, donc oui, je vais en profiter. Oui, ça va bien.
Bon, eh ben on a un Néo en forme aujourd'hui. Et alors, on est dans des décors un petit peu particuliers, parce que d'habitude, on est reçu. Alors, soit on fait des bars, soit on fait. On est dans des bureaux. On est... Mais alors là, on est effectivement dans un bureau, mais avec des fonds verts, avec des projos au-dessus de la gueule. C'est assez impressionnant tout le setup qu'il y a au-dessus de nous, puisque nous sommes chez les Tontons Truqueurs. Et nous sommes avec Pierre-Marie Boyer et. Anthony Pastor, si je ne dis pas de bêtises.
Et bonjour, ouais, c'est ça, c'est bien ouais. Ça.
Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut t'appeler Pim, Pierre?
Exactement, on peut m'appeler Pim, tout le monde m'appelle Pim.
Parfait. Eh ben, écoute, les prochaines fois, on t'invitera, tu viendras aussi, parce que nous avons des surnoms. Hein, oui. En trois lettres, bah écoute, tu pourras venir animer le podcast.
Pas de problème, ça me plaît bien comme
règle.
Bon, alors avant de voir qu'est-ce que c'est que les tontons truqueurs, est-ce qu'il y a un goût de pomme ou pas? Ouais, là, je vais en faire plusieurs.
Très bonne
référence. Attention, elles vont être discrètes, mais je vais en faire plusieurs. Ou peut-être pas tant que ça, vous me connaissez. Petite page de pub.
Le classico,
oui,
si vous voulez nous soutenir, évidemment, le principal à faire, c'est surtout de parler du podcast et de l'échanger. On est là pour partager un max de plaisir, de savoir, d'anecdotes, etc. On n'est pas là pour faire du bif, donc n'hésitez pas à en parler surtout. Mais si vous voulez quand même nous faire du bif, parce que bon, le matos, ça se renouvelle, mine de rien, ça fait 7 ans, on en parlait en off.
Ouais.
7 ans que cette émission a démarré, donc si vous voulez nous soutenir, il y a bon évidemment il y a un Spreadshirt vieux comme le monde et un PayPal, mais il y a aussi un Patreon à partir de 1€, vous pouvez nous soutenir et 1€ par émission, je précise.
Alors attention, ça risque de changer parce que Patreon a un peu changé le bousin.
On se mettra à jour.
Ça risque d'être. Ouais, on va voir ça. On va essayer de pas vous mettre une douloureuse un peu trop.
Oui, bah de toute façon, il n'y a pas de raison que. Enfin, on réajustera. Hein, on réajustera les tarots s'il y a besoin. Mais voilà, à partir d'1€, bah vous pouvez nous soutenir à 1€ par émission et à partir de là, vous avez accès au Discord et moult. Les émissions une semaine en avance, notamment.
C'est ça. 1, 3, 5.
Et pas mal de petites choses derrière. Oh ouais, c'est pour ça que je dis à partir d'1€. Comme ça, c'est plus simple. Parce que 3, 5, chaque fois, on se gourre. Ça rend les choses complexes, comme ce que je suis en train de faire. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, parlez du podcast. Merci à tous ceux qui le font déjà. Merci à ceux qui nous écoutent depuis le Japon, par exemple.
Oui.
Et d'autres. Et voilà. Merci.
Et voilà. Bon. On attaque.
Yes.
C'est parti.
Attaquons.
Parce que c'est pas tout ça, mais on a du pain sur la planche. On n'est pas venu pour beurrer les sandwichs, comme disait Raoul. Alors, Pim, Anthony, vous êtes donc des tontons.
Exactement.
Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe au Tonton Truqueur? Puisque c'est un studio qui est à Vendargue, dans le sud de la France. Quand je dis un studio, c'est 250 plateaux de 400 000 mètres carrés chacun. Non,
on aimerait bien, mais...
j'ai arrondi.
Soyons modestes encore.
Alors, c'est quoi? Vous faites quoi là-dedans? Et qu'est-ce qui se passe dans cette boîte?
Si on reprend un peu du début, l'histoire des Tontons Truqueurs, donc l'entreprise a été montée par Christian Guillon. Christian Guillon, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un superviseur des effets visuels maintenant assez âgé, hein, parce qu'il a pris sa retraite. mais c'est lui qui nous a transmis toute cette flamme chez les Tontons Truqueurs. Et donc, il a monté cette entreprise en proposant de faire des effets spéciaux en temps réel sur le plateau de tournage. Ça a été vraiment ça son credo, sa volonté depuis le début. Hein. Christian, donc comme je vous ai dit, maintenant il a plus de 70 ans. Donc quand il a commencé la 3D, hein, c'est un des premiers à avoir importé la 3D en France. Bien sûr, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. La 3D, notamment précalculée, c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Quand on fait des effets spéciaux avec des gens du plateau et en particulier en France, qui ont peu d'intérêt pour la 3D, eh ben c'est toujours compliqué de leur expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on n'a pas besoin, pourquoi on doit parfois décaler la caméra de 20 cm, pourquoi on doit utiliser des fonds verts, pourquoi on doit faire des tas de choses, et en fait qui sont pas si compliquées si on les fait, si on les explique correctement et que elles sont comprises. Et du coup, vu toutes ces galères qu'il avait en tant que superviseur de plateau, son grand rêve, c'était d'être en capacité de montrer l'effet spécial sur le plateau de tournage. Ça a été vraiment son credo, mais depuis qu'il a commencé, quoi, il m'a dit, vraiment, ça a été sa frustration de pas être en mesure de montrer qu'est-ce que ça va être à la fin et pourquoi il cassait les pieds à certains. Et du coup...
Mais de montrer à qui ? Au réel ?
Au réel.
Au comédien, au chef opérateur,
hein, parce que c'est vrai que nous, c'est quand même les chefs opérateurs avec lesquels on discute beaucoup.
Tu peux expliquer très rapidement ce que c'est qu'un chef opérateur pour ceux qui connaissent pas trop.
Donc, le chef opérateur, hein, sur un plateau de tournage, il y a deux patrons. Il y a le réalisateur, qui est le patron un peu de tout le monde, finalement, mais quand même qui est très garant de l'artistique. Et donc, il va être vraiment très relié à ses acteurs, voilà, la mise en scène, hein, comme on dit, hein. Voilà, c'est le metteur en scène. Même Christian, on parlait beaucoup de metteur en scène plus que de réalisateur. Et à côté de ça, on a le chef opérateur, qui est le deuxième chef du plateau. Il va être le chef de tous les techniciens du plateau. Alors en vrai, ils sont deux, parce que nous, on est de l'image, on est avec le chef opérateur image, voilà, on dit chef opérateur, mais il y a aussi le chef opérateur son, hein, qui va être en charge de l'équipe technique son. Mais le chef opérateur image, il va être en charge de tous les techniciens qui vont s'occuper de l'image. Et ils sont très nombreux sur un plateau de tournage, hein. Il va être, bien sûr, avec toute l'équipe caméra, c'est lui qui va diriger l'équipe caméra, il va être avec tous ceux qui vont faire la lumière, donc tous les électros.
Dont on parle plus souvent en général.
Exactement. Ouais. Mais aussi avec les machinaux, parce que aussi, voilà, ils vont mettre des outils pour faire bouger la caméra, les machinaux, ils vont s'occuper aussi des fonds verts, ils vont s'occuper quand même d'un certain nombre, voilà, de gros matériels, souvent, les machinaux. Et le chef opérateur, c'est le patron de tous ces gens-là. Il y a bien sûr des chefs de poste, hein, il y a le chef machinaux, le chef électro, le chef caméra, le premier assistant caméra, on dit pas le chef caméra. Ouais, c'est très codifié. Sur un plateau. Et en effet, voilà, donc ce chef opérateur, il va être le chef de tous ces gens-là et le garant de l'image.
C'est ça. Donc c'est lui qui va devoir ensuite transmettre ses infos aux équipes qui vont faire les FX après.
Exactement.
Les effets spéciaux, pardon.
Voilà.
Et du coup, si lui, il fait pas correctement son boulot, derrière, les gens comme Anthony en compte vont s'arracher les cheveux.
Exactement.
Pour pouvoir faire en sorte que ça ait de la cohérence et qu'on ait l'impression que la personne, elle est bien là où elle est et pas dans un studio.
Et il va dire, mais quand moi j'ai filmé, j'ai pas du tout filmé ça, je comprends pas, et pourquoi, et machin, je vais pas bouger la caméra, et pourquoi c'est si compliqué, nanana. Et du coup, voilà, Christian avait cette volonté d'être en capacité de montrer peut-être pas l'effet définitif, mais en tout cas une bonne idée de l'effet spécial pour montrer au gars, mais si je te casse les pieds, c'est parce que on veut que ce soit bien à la fin et que ce soit quand même jouable d'un
une
point de vue
un peu poussé,
exactement, voilà, une sorte de prévise.
Ce qui a été démocratisé, je pense, aujourd'hui avec les avatars, c'est ils ont beaucoup vendu. Alors j'imagine que c'est pas la même techno, parce que voilà, c'est pas
si
tu compares Avatar et Un si grand soleil,
c'est ce que la question que je pose en vrai. Est-ce qu'en vrai c'est la même techno, ou est-ce que c'est une version plus légère, est-ce que c'est un truc qui est plus adapté aussi au rythme de tournage et tout?
Les pipelines, comment dire, les étapes techniques plutôt, sont quasi les mêmes.
Ouais.
En vrai, on va pas se mentir, hein, c'est voilà, mais on va vous les expliquer, hein, ouais, pendant cette émission. Mais en vrai, c'est globalement les mêmes. Ils vont pas utiliser les mêmes outils, ils n'auront pas les mêmes moyens, ils vont y avoir un peu plus de techniciens que nous, mais en l'occurrence, après, il n'y a pas de secret. Ouais, c'est quand même à peu près la même chose avec d'autres moyens.
Je trouve que c'est des images qu'on a beaucoup vues, en fait. C'est des images qui sont assez parlantes, notamment là, avec le 3, ils ont vraiment poussé le truc très très loin. Moi, je regarde beaucoup le Corridor Crew, j'imagine qu'Anthony, tu connais.
On a vu ça la semaine dernière, il y a 4 jours. Là.
Et ils ont un mec, Loretti, je crois, il s'appelle, son prénom, je sais plus, qui est un mec, il a inventé tout. Il a tout inventé, c'est simple. Son credo, c'est je fais 3 fois la même chose, je fais un script, je fais la même chose pendant 10 ans, je fais un nouveau software, carrément. D'accord. Et du coup, ce truc-là, justement, de pouvoir avoir en temps réel les avatars, les FX, enfin même les dans la profondeur aussi, tu peux avoir un acteur qui passe avec des écrans devant lui, des écrans derrière lui, les avatars, le fond, ce qui n'était impossible avant finalement, parce que enfin tu pouvais faire ça de manière très sommaire. Mmh. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait quoi. Mmh. Donc là, c'est là où on parle de moyens.
Exactement.
On mettra les liens ouais, dans les notes de l'émission. Carrément.
Et voilà, et Christian, donc avec sa volonté, il expliquait, voilà, il voulait absolument, comme il expliquait que ce chef opérateur, il est garant de l'image. Il est garant de l'image globale. Mmh. Lui, il a inventé ce concept. Enfin, il a inventé. En tout cas, voilà, il essayait de mettre tout le monde au fait de dire, voilà, l'image, c'est l'image globale, donc FX inclus. Mmh. Et le chef opérateur, il est garant de, et ça, il aimait bien un peu leur rentrer dedans en leur disant, voilà, mon gars, t'es garant de l'image globale. Donc, t'es aussi garant des effets que je veux faire. Et au même titre que t'as une équipe caméra, t'auras l'équipe FX. Alors, c'est là aussi où il était très frustré parce que, en termes de fabrication de films et de chronologie, vous doutez bien qu'un chef opérateur, il est là au plateau, mais souvent en post-prod, il est déjà parti sur un autre film. Mmh. Et la prod, bien sûr, les producteurs qui n'ayant jamais trop d'argent, préfèrent ne pas payer les chefs opérateurs en post-prod hein, en disant, bah, et puis surtout, et les chefs opérateurs aimant un peu l'argent, et ils disent, ils partent sur un autre projet. Tout ça, fait que souvent il n'y avait plus le chef opérateur et qui est normalement le garant de cette image globale.
Oui, parce que dans l'autre sens, il n'y avait pas non plus forcément le superviseur FX de la boîte qui va les faire sur le plateau.
Exactement, ça tournage. C'est le deuxième enjeu.
Qui
c'est
lui
que
qui est censé prendre le relais finalement.
Le deuxième enjeu, c'était ça en effet. Hein, et ça en France, c'est toujours compliqué. Ça, par exemple, c'est en train de se débloquer là depuis, je dirais, depuis 3 ans ou maintenant quand même 2 ans, 3 ans où quand même les productions françaises ils comprennent que quand on met un superviseur, c'est pas pour mettre une ligne en plus sur le devis. C'est que ce superviseur il va permettre de gagner du temps, de vérifier qu'on a fait les choses correctement, d'expliquer au chef opérateur pourquoi on fait ça.
Oui, parce qu'il n'a peut-être pas forcément non plus tous les tenants aboutissants de la fin de chaîne, en fait. C'est quand même loin, en fait.
C'est quand même assez loin.
C'est ouais. Presque aux deux extrêmes, quoi.
Ouais. Et les chefs opérateurs aussi, hein. Voilà, après, nous, on aime les chefs opérateurs, mais, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu flippé des chefs opérateurs. Hein. Et Christian, le premier, avait cette blague récurrente qui disait « C'est quoi la différence entre Dieu et un chef opérateur ?» Dieu ne se prend pas pour un chef opérateur. ça a été un vrai challenge pour lui. Il disait voilà, il faut que j'arrive à être capable d'expliquer le pourquoi de mes demandes au chef opérateur sur le plateau. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est d'être capable d'afficher le truc
directement.
Et donc, toute sa vie, il s'est demandé comment il allait y arriver. Et quand Unreal Engine a commencé à monter en gamme en termes de rendu,
on y arrive.
Il s'est dit, tiens, mais ça,
pas mal, ça.
Ça a l'air pas mal, en fait. Parce que nous, avec nos moteurs, là, déjà, c'est aussi Christian détestait les temps de calcul. Donc, il n'était pas déçu en 3D, bien sûr. il grogne, Christian, un peu. Il fait... Et du coup, quand il a vu cette 3D temps réel sortir qui commençait à devenir photoréaliste, hein, c'est un grand mot, hein, parce que quand il a commencé à essayer de penser à ce projet, c'était il y a plus de 10 ans. Du coup, déjà, Unreal, on parlait pas encore vraiment de photoréalisme, mais... Voilà, Christian a toujours eu un peu un train d'avance et il disait, bon, ça, on n'y est pas encore, mais ça va marcher. J'en suis persuadé, ça va marcher. On s'y met déjà et ça devrait commencer à fonctionner. Et voilà, et donc il a poursuivi son truc et après, c'est là où il a commencé à faire des tests à Louis Lumière, régulièrement.
À l'école Louis Lumière.
À l'école Louis Lumière, ouais, c'est ça.
L'école de réalisation.
L'école du cinéma. Hein,
À Paris.
Ouais. Et du coup, voilà, après, c'est vrai que je ne rentre pas encore dans le détail, mais peut-être on peut commencer.
Présentez-vous déjà tous les deux votre rôle dans cette boîte et après, on rentre dans le détail juste après, si tu veux bien.
Ouais, pas de problème.
Du coup, toi, Pim, c'est quoi ton poste, on va dire, ton
Moi, mon rôle poste, c'est le terme pompeux de directeur des productions.
Ok.
Chez Tonton Truqueur. Donc voilà, moi je m'occupe globalement un peu de, bah, de tout et de rien, comme j'aime bien dire. Hein. De l'organisation de l'équipe, du commercial, de bouquets, des relations clients et un peu de tout ce qu'il y a autour. Voilà.
Un peu de technique aussi.
Un peu de technique, moi j'aime bien mettre les mains un peu dedans, même si, voilà, moi comme j'aime bien dire aussi, je sais vraiment, comment dire, presque rien faire, je sais, j'ai toujours des bonnes
idées. Tu t'intéresses quand même.
Voilà, en fait, j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent et essayer de trouver des tricks, mais bon, vous me mettez devant un Nuke ou un Unreal, je sais faire de...
Il y a la théorie et la pratique, quoi.
Je sais faire... Voilà, moi j'ai la théorie, mais j'ai pas la pratique.
Tu fais suite à un podcast qu'on a fait juste avant avec un producteur qui s'appelle Abdelak en jeu vidéo, et c'est un peu, pour ceux qui ont écouté cette émission, c'est le même genre de rôle. C'est-à-dire, ouais. Voilà, tu viens de l'expliquer, donc je ne vais pas le réexpliquer. Mais c'est intéressant. Du coup, il va y avoir un écho assez fort, je pense, là-dessus.
Anthony, et toi, Anthony ?
Eh ben, moi, je suis plus sur la partie opérationnelle, on va dire, côté compositing, du coup. Moi, mon taf, en gros... Moi, j'aime bien expliquer le compositing avec les matériaux de la vraie vie. Par exemple, les matériaux composites, c'est différentes parties qui vont être agglomérées ensemble, comme dans du bois, par exemple. Et bien, le compositing, c'est un peu l'art de mélanger les différentes sources et d'essayer de les rendre cohérentes et d'afficher une image qui, en l'occurrence, doit être photoréaliste dans le cadre de la série Ainsi Grand Soleil et d'autres projets sur lesquels on peut bosser.
On avait fait une émission sur le compositing.
Vous avez fait une émission sur le compo, ouais.
En animation, mais ouais. C'est pareil.
C'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'en plus de ça, dans du live, tu as aussi une part de FX qui est intégrée?
Alors, ben,
tu vois
en fait,
ce que je veux dire,
alors,
de création de FX, je veux dire.
Alors,
vraiment...
Pour les compeurs, tu veux dire,
ouais,
ou,
pour ce que tu fais toi au quotidien. Ouais.
Ben, alors, nous, alors, sur la série, non. Parce D'accord. que la série, c'est des enjeux de quotidienne avec un flux de production. On va en parler plus tard.
Parce qu'on parle de la série Ainsi Grand Soleil.
Non, on parle de la série
Ainsi
Grand Soleil.
C'est
voilà. ça. Mais après, dans l'absolu, effectivement, on pourrait intégrer des particules, des effets de flammes qui seraient générés par des FX artistes, par exemple, et qu'on intégrerait dans des environnements 3D ou des environnements live, en fait, ou un mix des deux. Donc ça, oui,
donc si ça reste effectivement l'équivalent, c'est-à-dire que tu ne vas pas créer des effets,
non.
Mais par contre, tu vas venir les assembler.
Ouais, c'est ça, on va venir les assembler. Après...
Comment c'est-tu, du coup?
En fait, ouais, c'est ça. Et en fait, là, sur la série, il y a, on va dire qu'il y a un double enjeu. Il y a un enjeu d'intégration, donc de la 3D qui est... plutôt à l'arrière-plan. On remplace des fonds verts, en fait.
Ouais, parce que donc, j'allais dire, attendez, mais comment ça, de la 3D?
Oui, et oui, parce que je crois que c'est un peu ce que raconte Epim, hein, globalement, avec l'histoire de Christian Guillon. Parce qu'entre-temps, Unreal ayant évolué vers quelque chose de plus... je ne sais pas si c'est parfaitement photoréaliste, ce serait un peu mentir de dire ça. Mais en tout cas, dans notre usage, c'est-à-dire de l'arrière-plan qui vient entourer le décor, ça fonctionne vraiment très très bien.
Ce qu'on appelle l'extension de décor, c'est
ça ? Ouais, c'est ça, c'est exactement. Du set extension, ouais. C'est ça. En fait, ce serait bien qu'on ait des images pour que les gens puissent se rendre compte de l'environnement.
C'est la frustration de ce podcast.
Mais on vous enverra deux, trois bandes bien spécifiques à chaque chose qu'on va expliquer ce soir. Comme ça,
c'est ce qu'on met toujours en plus.
Nickel,
donc, très bien.
Ouais. Des petits liens YouTube.
Et je pense que ça vaut le coup pour bien illustrer le propos. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a un double enjeu, en fait. Il y a le premier enjeu qui est donc effectivement de retirer ces fonds verts pour y insérer des environnements 3D qui sont traqués en temps réel selon le mouvement du chef-op qui va se balader.
Donc de la caméra.
Ça. Pim vous expliquera mieux comment ça fonctionne avec le système de tracker en temps réel qui est connecté à Unreal avec toute une infrastructure complexe. Ça, c'est un autre sujet. Donc, premier enjeu, c'est faire le set extension avec des passes de 3D, enfin des passes, des rendus, une beauty, hein, globalement. Je pense que nos auditeurs connaissent ça, quoi.
La plupart, oui.
Et voilà, la plupart. Et ensuite, il peut y avoir des enjeux de clean et de restore. Ça, c'est vraiment plus des tâches de compositing qui sont liées au live, en fait. C'est-à-dire que voilà, des fois, sur les. Voilà, par exemple, bon, une fois de plus, les auditeurs ne peuvent pas s'en rendre compte, mais là, les fonds verts, ils sont un peu sales. Et en fait, ça, sur un fond vert, il faut le dégager. Des fois, il va y avoir des perches dans le champ. Là, au plafond, on a des grids de light, et des fois, il y a des box qui vont peut-être être un peu suspendus, et le chef-op, il va un peu cadré trop haut. Bah, du coup, il va falloir virer tout ça.
Les fameux
perchemans un peu fatigués.
Ouais.
Pour les plus vieux d'entre nous, ceux qui voyaient des morceaux apparaître dans le cadre à l'époque, c'était un peu plus difficile, mais aujourd'hui, ça s'efface très
aujourd'hui, facilement. Ça c'est encore un autre sujet, mais il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'aller encore plus vite qu'à une certaine époque. Ouais. Voilà, peut-être qu'on y viendra. Donc il y a un peu ce double enjeu, en tout cas, sur la série. Mm-hmm. Là, on parle de la série, mais après, les tontons, c'est pas que Ainsi Grand Soleil. En tout cas, ça tend vers quelque chose de plus large, qui est quand même orientée sur le live. Hein. On n'est pas une boîte d'anime. Hein. En tout cas, je ne crois pas que ce soit la
boîte de VFX.
C'est... Ouais, c'est ça.
Oui, c'est de tel qu'on c'est presque la terre VFX. Ouais. Ouais.
Okay. Par contre, du coup, il n'y a pas d'ajout. Tu parles de clean, donc de nettoyage.
Ça peut.
Il y a quand même des ajouts de temps en temps.
Ça peut.
Avoir des trucs.
Mais si on parle de la série,
oui, je parle de la série pour le coup.
Tu vois, dans le côté quotidienne, ce serait a priori compliqué de commencer à rajouter, je sais pas, des bagnoles, etc.
Ah, c'est bien que tu vois dans un engrenage.
C'est plus les mêmes workflows en fait. Quoi. C'est ça. Ouais. C'est là tu commences à mobiliser des équipes
de
ça
modeling,
peut être de modeling anime, tout le bordel. Quoi.
Là, on rentre dans notre process qu'on connaît plus. C'est ça. Là,
donc du coup, ça devient colossal.
C'est là, parce qu'on pourra faire un petit point quand même sur ce que c'est cette série quotidienne. C'est ouais. Faut quand même.
Alors, Pim, vas-y, explique-nous un peu.
Bah, ouais, pour se rendre compte quand même, la série quotidienne, c'est. C'est un marathon qui s'arrête jamais. Il ouais. Faut quand même se le dire.
Mais qu'est-ce que vous faites là?
Combien de minutes voilà. Déjà
non, mais voilà, faut donner un peu les métriques. Hein. Faut se dire, donc une quotidienne comme un si grand soleil, c'est 260 épisodes par an.
De combien de minutes l'épisode?
23 minutes.
23, ouais.
Donc si on, on raisonne un petit peu, 260 épisodes par an, ça veut dire en fait un épisode du lundi au vendredi qui pleuve, qui vente ou qui neige.
Inédit. Il n'y a pas de rediff.
Inédit, pas de rediff, voilà. pas de vacances, pas de pause. Il y a toujours un épisode d'un si grand soleil du lundi au vendredi, quoi qu'il se passe, y compris à Noël, y compris tout le temps. Du coup, ça veut dire
ne pleure pas tout de suite, Antoine.
Ça va, je suis pas tout seul dessus. Heureusement, je fais pas que ça.
Ça veut dire qu'il faut sortir 23 minutes d'image par jour.
Ouais. À titre de comparaison, un film d'animation, c'est 1h30 à sortir, donc 90 minutes. Par rapport aux 23, et on met 1 an et demi.
Voilà.
Je suis gentil, je parle que de la prod.
Oui.
Et donc, si vous avez un peu entendu ce que j'ai dit, ça veut dire que 260 épisodes par jour, ça veut dire que... Et du lundi au vendredi par an, ça veut dire que, eh ben, en fait, on ne peut pas se permettre de fabriquer un épisode en plus d'un jour.
Mm-hmm.
Parce que si on raisonne dans la durée, eh ben, un jour, on va se faire rattraper par la diff.
Mm.
Parce qu'en effet, on doit toujours diffuser un nouvel épisode.
Même si tu comptes le week-end, bon.
Donc,
on n'a pas envie de faire bosser les gens le dimanche non plus, quoi.
Et donc, voilà, ça veut dire qu'il faut fabriquer 23 minutes par jour. Ah, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on le fait? Donc, pour fabriquer tout ça, eh ben, en fait, on se met 4 équipes de tournage tous les jours qui vont chacun tourner un bout. Bien sûr, tout est cross-bordé. Hein, donc, cross-bordé, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'on tourne dans le désordre. Hein, on va tourner un peu à la chaîne, on va faire tout le commissariat d'un coup, on va faire tout l'hôpital d'un coup.
Ça permet de mobiliser aussi les endroits et les gens d'un seul coup, plutôt que de dire dans un même lieu. On fait 2 minutes, puis demain on en fera 3, puis machin.
Tout est optimisé. Hein, chez nous. Et ça, voilà, hein, ça, dans notre métier, certains...
Même pour n'importe quel tournage, t'optimises.
Oui, pour n'importe quel. Mais voilà, mais nous, c'est vrai qu'on le fait presque à l'extrême, pour être honnête. Hein. Ouais. Il y en a qui ont peur dans notre métier de ce mot-là, mais moi, je préfère être honnête avec ça. C'est que nous, c'est l'industrie, quoi. On est dans un... On fabrique un programme industriel, hein, 260 épisodes de 23 minutes. Si, comme tu disais, hein, si on reprend, hein, ça veut dire qu'en fait, on fait un long métrage d'une heure et demie par semaine. Hein. Donc, en fait, voilà, on peut pas se permettre de pas dire, enfin, ça serait mentir que de vous dire, non, on n'est pas industriel, on est très artisanal, on fait attention à tout.
On prend le temps, on fait
attention à tout, on essaye de faire attention à un maximum de choses. En revanche, voilà, c'est un rythme industriel qui impose des codes industriels, qui impose des process, qui impose quand même des choses qui doivent être très cadrées. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Optimiser aussi.
Par exemple, hein, ça, c'est quelque chose, voilà, on sait que la communauté est assez restreinte. Enfin, c'est plutôt les gens de chez nous qui écoutent, quoi. Mais par exemple, voilà, chez nous, les réalisateurs, au sens réalisateur, sont presque considérés comme des techniciens parce que ils n'ont pas non plus capacité à dire ah ouais, non, mais on va faire un truc ce coup-là et tout.
Ils n'ont pas le temps.
Non,
de
repensé à la scène d'hier.
Et il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. ils ne sont pas forcément restés chez nous parce que chez nous, voilà, on ne peut pas tergiverser. On est dans un programme industriel. Donc c'est 4 équipes de tournage tous les jours, 2 en studio maintenant. On a commencé, hein, quand on a commencé il y a 7 ans, presque 8, on était 1 en studio et elle faisait la moitié de la journée sur fond vert et l'autre moitié en tous les décors en dur. Aujourd'hui, on est arrivé à 2 équipes en studio et parfois 3, et toutes les équipes en studio sont sur fond vert, enfin okay. sur des décors avec du vert, pas forcément tout le temps,
comme nous disait,
pas forcément
Antonio, ouais.
tous les plans n'ont pas forcément du trucage, hein, parce que vous voyez il y a quand même des éléments de décor réels, mais en revanche voilà, ça veut dire quand même deux équipes par jour en studio, et voilà, qui ça sort hein, du entre 6 et 8 séquences par équipe par jour, hein. Là aussi hein, le rythme, hein, je sais pas si nos auditeurs savent un peu, mais bah, typiquement pour un long métrage, on est plutôt sur des rythmes entre 2 et 4 séquences par jour, quoi. Chez nous, c'est plus 6 ou 8, hein, donc ça bastonne hein, quand même. Et donc, on peut pas, voilà, ouais, encore une fois, on peut pas trop tergiverser, et ça nous crée donc un certain nombre de volumes d'images, nous, ensuite, derrière à truquer. Là où, encore une fois, on industrialise, c'est que on va avoir cette capacité sur le plateau à montrer cet effet spécial, comme le souhaitait Christian. Pour ça, voilà, c'est juste pour expliquer la technique donc de prévisualisation on-set. En fait, on fait 3 étapes sur le plateau de tournage. On fait une première étape qui va consister à traquer la caméra. Donc ça, connaître le mouvement exact au pixel près, au millimètre près, parce qu'en vrai, on n'est pas au pixel près, on est au millimètre près. Donc la position de la caméra exacte à chaque frame, donc au millimètre. Le deuxième étape, ça va être le rendu 3D. Donc là,
Me permets, Pim, aussi, vas-y. C'est position de la caméra, mais plus que ça, c'est aussi tous les paramètres de la caméra.
C'est vrai.
Qui vont servir à toi.
Expo, diaph, enfin, tout ça. Quoi,
qui va te servir à toi. Parce que ben, c'est ça qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que là, on a deux personnes qui sont presque chacun en bout de chaîne, d'un bout à l'autre, et ce dont parle Pim à l'instant, c'est au tout début.
Exactement.
Et finalement, cette information, elle va être primordiale pour Anto à la fin, parce que c'est information de tracking, c'est ça?
C'est ça. C'est que, par exemple, tu vois, la mise au point, le réal, le chef-op, ils peuvent faire des bascules de points dans leur séquence. Tu vois.
Donc, changer
des points
de séquence,
changer le flou, le point de netteté, voilà, en gros.
Je vulgarise.
Voilà. Et ça, c'est des informations qui vont remonter via le pipeline dont on parlera après, qui transitent jusqu'à chez nous. Et en fait, ça permet d'avoir une database, un ensemble de données qui vont nous permettre d'aller reproduire ça directement dans Unreal, en fait. Mm-hmm. Et même, effectivement, jusqu'au comp, tu vois, récupérer des infos qui sont assez essentielles, en fait.
Mm-hmm. Bien sûr.
Donc, ce tracking, pour faire ça, pour que tout le monde comprenne, c'est en fait, on installe une petite boîte sur la caméra qui a elle-même une autre caméra et qui vient regarder le plafond. Et vous verrez, dans tous nos décors, au plafond, il y a soit des petites étoiles, comme on a ici.
C'est effectivement plein de petits points, une espèce de nuit étoilée.
C'est ça. Soit des QR codes, parce qu'on a 2 technologies de tracking. Et on est en train de rentrer une 3e où il n'y aura plus besoin ni de QR codes ni d'étoiles, avec nos copains de Spline, pour ceux qui connaissent. Mais bon, non, on n'est pas là pour l'instant. Pour l'instant, on fait avec les étoiles ou les QR codes. Et donc, cette petite caméra supplémentaire qui est dans cette petite boîte, elle regarde le plafond. On lui a appris avant le tournage où sont les petites étoiles. Et en fait, tel le GPS, elle fait de la triangulation. Et elle sait que si elle voit cette constellation, eh ben, c'est qu'elle est là. C'est ça la magie du tracking avec ces trackers.
Alors, pardon, tu parles de constellations. Moi, je regarde tous les petits points au-dessus. Est-ce qu'ils ont été placés genre au millimètre près ou ils ont été placés un peu au hasard?
Alors,
et
ça, j'ai
du
une
coup,
petite anecdote marrante. C'est que... Comme je vous disais, avant, on traquait avec des QR codes.
Ouais.
Et les QR codes, on avait des listes de QR codes qui étaient tous indépendants. Et donc, les premiers, ils me faisaient, je leur disais, bon, allez, vous mettez les trackers. OK, ils me faisaient un truc joli, tous les trackers bien alignés, nanana.
Mm-hmm.
Super. Et vient la nouvelle techno et on leur dit bon ben les gars il faut pastiller donc là voilà ces petites pastilles il faut les pastiller au plafond et ils me disent ben oui pas de problème et tout et ils m'installent tout au cordeau bien aligné trop joli c'était joli hein
mais la caméra elle savait plus combien elle avait d'oreilles sur la tête
et là je leur dis ouais mais j'avais oublié de vous le dire ça mais en fait les gars ouais vous avez vu ça c'est pas unique quoi une pastille c'est tous les mêmes donc si vous faites pas des patterns là on est cuit quoi du coup en fait il faut les mettre en bordel ces trucs là vous les posez voilà il faut les mettre un peu n'importe comment quoi et plus vous les mettez n'importe comment mieux ça va marcher et du coup on a dû se repastiller tout le studio. On était à un tiers.
Parce que l'idée, c'est que sinon, la cam, elle fait pas la diff entre une ligne et une autre ligne.
Et ben non, ouais. C'est là où ça reconnaît chaque pattern, voilà, presque au millimètre. Mais du coup, si tu t'essayes de tout aligner, là, le truc, il pète un plomb, quoi.
Tu n'avais pas cette info, ok, ouais, excellent.
Et du coup, voilà, mais pour la blague, quand même, on s'est refait un tiers de studio parce que, ouais, je suis arrivé, ouais, je suis plus à midi, là, et il me dit, ouais, moi, on a déjà fait un tiers. Et je dis, ah ouais, non, mais là.
Si, il était dur à avaler.
C'est baisé, là. Du coup, on a refait. Donc ça, c'est la première étape, ce tracking, tracking caméra, donc qui récupère la position exacte de la caméra à chaque frame, plus, en effet, les informations optiques dont parlait Anto. La deuxième étape, c'est que ces coordonnées caméra, plus les informations optiques d'ailleurs, on les envoie à Unreal, qui va nous calculer l'image dans la bonne perspective, parce qu'elle sait où regarde la caméra, hein, et avec les bonnes aussi zones de flou et de netteté, parce qu'on lui transmet aussi l'information de point. Et donc, elle va nous calculer l'image 3D dans la bonne perspective. Une fois qu'on a...
C'est de la motion capture de caméra, quoi, et de set.
Si on voit d'une certaine façon...
Bah, l'étape de tracking, c'est de la motion capture de caméra.
Voilà.
On pourrait le faire avec un setup de mocap. Même d'ailleurs sur nos écrans LED, c'est ce qu'on fait. Parce que pour d'autres raisons qu'on pourra évoquer, mais on fait aussi du tracking caméra avec des outils de mocap. Ensuite, donc ça part dans Unreal. Là, ça calcule la 3D. Et la dernière étape qu'il faut faire, c'est mélanger les deux. Et là, comme on fait du live, comme on veut avoir le truc en live, on le fait sans Anto et sans les compeurs, et on le fait comme des bourrins, comme j'aime bien dire, avec, c'est les outils de la météo. On a un simple keyer bourrin qui efface le fond vert.
Catherine Laborde et tout.
ça peut arriver. Et ça efface le fond vert. Là, chaque pixel vert qu'il voit, paf, il efface et il te le remplace par le Unreal qui a été calculé. Et paf, ça nous fait une prévisualisation.
C'est la prévision, ouais.
Et pour donner une idée de la forme que ça prend sur le tournage, t'as une caméra avec un câble qui va vers un ordinateur et un ordinateur qui repart vers un écran.
C'est exactement ça.
C'est vraiment fait avec des câbles et tout.
Il y a des câbles. On a remis un fil à la patte aux caméras. Hein, et ce qui était scandaleux il y a 7 ans, on a failli, tout arrêter pour ça. Hein, c'est aussi l'histoire des tontons. Ouais. Bah.
Parce que c'était le bordel.
Si vous voulez, c'est que il y a 7 ans, je crois qu'ils ont enlevé les fils à la caméra il y a à peu près 10 ans. Donc, ça faisait 3 ans qu'ils commençaient à kiffer la liberté de plus avoir de fil.
Je disais ça naïvement, mais il y a un vrai truc, d'accord.
Ah non, après, les mouvements de caméra, faut travailler.
Ça, on pourra aussi en parler, mais du coup, on est arrivé il y a 7 ans et on leur a dit, les gars, ouais, il faut rebrancher le truc parce que le tracker, il marche pas, si on n'est pas relié. Il y avait trop de latence et même ça marchait pas. On avait essayé des trucs, hein, parce que ça avait vraiment râlé fort, hein. Et on leur a dit, non, mais c'est baisé, on va pas y arriver si vous nous laissez pas le fil à la patte.
Encore aujourd'hui, du coup.
On a des pistes un peu là et qui sont de plus en plus crédibles pour le résoudre, mais pour l'instant, c'est toujours une tresse qui relie le truc à la caméra. Et on avait deux problèmes. Enfin, on cassait les pieds avec notre fil et on rajoutait cette boîte sur la caméra. Hein. Je ne sais pas si vous êtes passé un peu sur les tournages, mais les caméras sont bardées de bazar et d'accessoires divers et variés sur les trucs. Putain, quand il a fallu installer notre tracker, en plus les premiers pesaient quasiment 1,2 kg, je crois. Le steadicammer, par exemple, il nous haïssait. Il nous haïssait.
C'est les caméras
d'une force.
C'est caméra sur un pied, caméra portée à l'épaule,
On doit toujours installer le tracker. Boîtier. Si tu veux faire du VR en temps réel, tu dois installer le tracker. Et du coup, mais ça a failli capoter. Hein. Faut savoir que mes 3 premières années chez Tonton Trucker, qui correspondent donc aux 3 premières saisons d'Un Si Grand Soleil, mon rôle consistait à faire de la pédagogie et à expliquer. On a cassé les pieds à tous les départements. Mais alors, tout jusqu'au bien sûr, la déco, ça, c'est, on leur a cassé les pieds parce qu'on n'a pas dit une étape supplémentaire, mais le set 3D, il faut le faire avant le tournage, en cohérence, bien sûr, avec ce qu'on va construire décor. Déjà, la déco nous regardait mal. Après, paf, il faut installer le truc sur la caméra.
Mais parce que du coup, le décor s'adapte à ce qu'il y a en fond, enfin, qui va remplacer le fond vert, ou c'est l'inverse ? Parce que ce serait plus logique que ce soit la 3D qui s'adapte au décor.
La 3D s'adapte au décor.
Okay.
Mais tant qu'on nous donne pas... si vous voulez, il faut qu'on construise la 3D en même temps qu'eux, ils construisent le décor. Et s'ils nous disent pas ce qu'ils construisent...
Après, chacun, la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche.
Dans la conception des décors, il y a quand même une connexion entre le département de la déco et le département du set dress. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même des systèmes il y a un châssis. Il y a un système de châssis aujourd'hui qui, en gros, c'est un modèle sur lequel ils viennent se plaquer. Et on sait que sur ces modèles-là, il y aura des murs. Et du coup, les décors sont construits... en gros, de cette façon-là, et on sait qu'à la 3D derrière, ce sera des décors qui auront toujours plus ou moins la même, architecture d'une certaine façon.
Tu sais que c'est pas la même.
Mais ça, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, parce que avant, la déco, par exemple, disait « Ah non, mais la partie 3D, là, on ne sait pas ce qu'ils vont trafiquer, ils se démerdent. » Et voilà. Et ça, ça a été... Et avec un vrai challenge dans la mesure où... je veux dire, ils étaient flippés et ça se comprend. Et Christian en avait beaucoup parlé, hein, parce qu'il savait que ça allait être un des gros pièges. Et c'est marrant parce que maintenant, avec le recul et tout, on peut répondre. Maintenant, la déco, c'est nos copains. Maintenant, on pense les décors ensemble. Et on leur a bien expliqué que nous, on est des techniciens avant tout. Et nous, on ne va pas créer le décor. Nous, on va le faire. On va le fabriquer.
Et, voilà. ouais.
Et du coup... au début, la déco pensait qu'on allait leur piquer leur travail et qu'on allait finir à tout tourner sur fond vert et qu'ils n'allaient plus rien faire et que...
on n'est pas chez Marvel ici, bordel.
Et tout le monde serait viré.
Même, c'est vrai, il peut avoir cette intuition de se dire, mais en fait, ils vont tout en tourner sur fond vert, il n'y aura plus de décor naturel.
Pendant 3 ans, voilà, on a dû expliquer que, en fait, c'est pas ça qu'on va faire, les gars. C'est que, déjà, on a vachement besoin de vous parce qu'on a toujours besoin de bouts de décor. Que, ok, peut-être... on va peut-être un peu moins construire quand on fabrique un décor, parce qu'on va mettre, comme vous voyez ici, beaucoup de verre. Donc, on va moins construire de feuilles de décor et de merdier.
Ben là, je t'interromps, juste pour décrire un peu l'endroit où on est. Donc, on est dans une partie de plateau. Et effectivement, il y a deux murs qui sont un mur de bureau. De bureaux, de je sais pas quoi, de comptables, d'avocats, de je sais pas quoi. Et aussi, on a deux murs qui sont totalement fond vert. Donc, et on a par contre le sol, c'est une espèce de lino, on a des meubles en dur, on a. Donc il y a. C'est presque moitié-moitié.
Il y a un intérêt aussi à ça, c'est que les comédiens, il faut qu'ils puissent quand même interagir avec le décor réel.
Et puis avoir des repères aussi.
Et avoir des repères.
C'est pas que des marques, des marques blanches avec des croix, et tu vas de la croix verte à la croix bleue.
Ce exactement. En termes de mise en scène, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on leur a dit, nous, on fait des décors, on les fabrique en 3D, mais ça n'empêche pas que déjà, tout l'artistique, on a besoin que vous nous disiez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez. Comme je vous ai dit, les premiers set extensions qu'on a fait, on a dû les faire nous-mêmes, parce qu'ils et ils nous disaient à peine il y aura cette porte, ça va être prolongé, démerdez-vous. Et c'est moi qui ai fait les premiers dessins, j'ai fait on va faire un truc comme ça. Mais très vite, j'aurais dit ça peut pas durer ça. En fait, c'est que on doit travailler ensemble. Du coup, maintenant, le chef déco, toi, tu vas penser le décor dans sa globalité, et au lieu comme avant, tu te casses les pieds à te dire « Ah, mais j'ai tel budget, je peux faire que ça, nanana. » Non, tu dis « T'as plus de problème de budget. » Tu fais ton décor de rêve, et tu te fais kiffer là sur ton... eux, ils font du SketchUp. Tu fais ton décor de rêve sur SketchUp aussi grand que tu veux et fais-toi rêver. Tu t'en fous, on t'a dit que t'as 200 mètres carrés sur le plateau, mais si tu veux un truc de 600 mètres carrés, tu fais 600 mètres carrés, tu fais ce que tu veux.
C'est une bonne manière de le vendre.
Et les producteurs.
Et ensuite, on va faire un rendez-vous ensemble et on va se dire ce qu'on va faire en vrai et on va se dire ce qu'on va faire en faux.
Qu'on enlève et qu'on fait en 3D et qu'est-ce qu'on laisse qu'on
et à partir de là... quand ils ont compris ça, et le deuxième truc qu'il a fallu leur expliquer, c'est que oui, ok, maintenant, construire un décor pour vous, ça va être moins important comme travail. Parce que, en effet, vous allez moins construire de machin, il y a moins de meubles à mettre parce qu'on va en faire plein en faux. Mais sauf que, au lieu de faire 3 gros décors par an, on va en faire maintenant 8 par an. Et du coup, en fait, on va pas avoir besoin de moins de gens. On va peut-être même en avoir besoin de plus. C'est ce qui est arrivé.
Mais ça va diversifier.
On n'aura peut-être pas besoin d'avoir que les mêmes compétences, mais au final presque aussi. Et c'est juste qu'on va devoir en avoir plus, donc on va pas vous virer du tout. On va surtout trouver des gens qui veulent bien faire cette nouvelle méthode et travailler avec nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, tout a été réglé, quoi. Ensuite, on a inventé ce concept de décor. Voilà, en fait, hein, ce décor en L, c'est ce qu'a essayé d'expliquer un peu Anthony. C'est que, en fait, on a développé ce concept. C'est que on a toujours deux murs en dur. Et tout va être calqué sur ces deux murs qu'on va pouvoir venir réhabiller comme à l'envie. Et ensuite, tout ce qui est meublage et sol, on le change. Et en fait, on peut être n'importe où on a besoin. Et du coup, on a commencé à construire un décor en L comme ça, sur lequel on a fabriqué du coup 10 environnements différents.
Putain.
Puis on est arrivé à 10. En fait, on n'avait plus le temps de changer de décor, de changer la déco. Du coup, on s'est fait un deuxième plateau avec un décor en L qui peut aller dans l'un ou dans l'autre. On est arrivé à 20 décors tournants et on n'avait plus le temps. Et du coup, on a fait un troisième. Donc, on a trois sets.
Là, vous êtes à combien ?
On a trois sets en L de décors tournants.
D'accord.
Et sur lesquels, du coup, maintenant, il y a plus de... je crois qu'il y a... j'exagère un peu parce que je crois qu'en ce moment, il y en a 25 en prod des décors.
Ah ouais.
Qui tournent. Puis après,
sur trois plateaux,
sur
25
plateaux.
Décors.
Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a eu une belle progression parce que là, aujourd'hui, on parle de décors qui sont semi-ouverts sur des fonds verts. Mais à l'origine, c'était que des fenêtres. Il n'y avait pas de passage de sol. C'est-à-dire que là, maintenant, les comédiens, ils peuvent même marcher sur les fonds verts.
Ouais.
Avant,
sur le sol vert.
Sur le sol vert, ouais, c'est ça, pardon. Et,
on ne le recommande pas quand même.
Ouais, alors...
Il faut éviter le cadre des toiles.
On ne cadre pas le sol, sinon après les contacts, l'occlusion, ça devient compliqué.
On ne filme pas les pieds.
On évite de filmer les pieds, bien sûr, il y a quand même des contraintes. Il faut rester un peu sérieux, on va dire. Quoi. mais voilà, à l'origine, c'était que des passages de fenêtres qui donnaient sur
des
décors extérieurs.
Ah oui.
Et voilà.
Faire croire qu'on était en décor naturel et que derrière, il y avait le tramway de Montpellier qui passait sur la place de la Comédie.
Le tramway, c'est encore un autre sujet.
Et ça, petite anecdote aussi, parce que, comme on vous l'a dit, on a commencé maintenant il y a quasiment 8 ans. Il y a 8 ans, on était Unreal Engine. Quand on a commencé, on était Unreal Engine 4.14.
Ouais.
4.14. Et ben, ça piquait les yeux.
Oui.
Et on serrait les fesses. Et
le blur, ça y allait sur le potard de blur.
Ouais, les gars, ça va être bien, mais regardez, c'est flou, hein, de toute façon, machin. Et en vrai, ça piquait les yeux. Vous regardez les premiers épisodes d'Un Si Grand Soleil, vous vous dites, oh, putain, quand même, c'est un peu de la merde, leur truc. Et en vrai, là où on est sorti du bois, c'est à la sortie d'Unreal 5, où là, tout le monde a dit « Ah putain, peut-être ils avaient une bonne idée quand même, ces tontons un peu fous là. » mais avant ça, c'est vrai qu'on serrait fortement les fesses quand même.
Ouais, parce qu'en
on va mettre du flou un peu.
Règle
un peu ta doff.
Pour revenir sur l'histoire de Christian, moi, de ce que tu m'as raconté, parce que moi je suis chez Tonton depuis 2 ans et demi, donc j'ai pas tout l'historique, mais par contre, Pim m'avait un peu raconté, il me semble, que quand Christian était parti un peu dans ses idées farfelues, c'était un peu envers et contre tous, de ce que tu m'avais expliqué. Personne n'y croyait vraiment à cette histoire, quoi.
Ouais, bah, enfin, on nous prenait un peu pour des zinzins, hein, quand on allait dans les manifestations des effets spéciaux, qu'on avait commencé à faire des effets avec Unreal. On a quand même cette dichotomie, on en parlait un peu en off là quand on a commencé l'émission, c'est qu'il y a quand même le monde du jeu vidéo et le monde du cinéma. Et Christian d'ailleurs en est un très bon. Christian par exemple il dit ah le jeu c'est pas bon. et donc non mais pour lui le jeu c'est nul.
D'accord, ok, ouais. Bon.
Il a vu The Witcher quand même. Pas mal quand même.
Et du coup, c'est marrant parce que il est un des premiers à faire cette dichotomie. Ah non, mais le jeu, c'est machin, c'est pas nous le cinéma ou la fiction quoi.
Parce qu'il a un attrait pour le photoréaliste ou.
Je sais pas, parce que non, je crois qu'il aime bien l'anime. Non, c'est vraiment la fiction quoi.
Et
le fait, ouais, le jeu vidéo. Bon, il est vieux quand même, Christian, du coup. Dans sa tête, je pense que le jeu vidéo, pour lui, c'est pour les gosses. Et voilà, et c'est comme ça, quoi. Et c'est marrant parce que, voilà, ouais, c'était un truc qu'on retrouvait après chez nos copains des VFX qui disaient,
Non, mais comment ça, vous allez faire des VFX avec des outils de jeux vidéo? Ça va jamais marcher, c'est de la merde, vous avez vu leur rendu, enfin, nous, on fait du photoréalisme.
Vous faites de l'abricot,
ouais, ouais.
Tout ça, quoi.
C'est ça, ouais, ça va jamais marcher, votre truc.
C'est un truc de raffia.
Vous pouvez vous amuser, mais ça va, c'est nul, quoi.
Mais lui, c'était gratos. Il avait pas ce truc, il avait pas ce rapport à Unreal, alors, du coup.
Et c'est là où je dis que c'est étrange, ouais, c'est ça, parce que ouais. D'un côté, il a cette défiance, mais il a cette vision un peu du jeu vidéo, et de l'autre côté, il disait, mais putain, si, avec Unreal, on va y arriver, quoi. Et il avait vu que ça allait marcher. Et voilà, et l'industrie nous a, on est devenu crédible quand Unreal 5 est sorti. Mm-hmm. Tout de suite, Unreal 5 est sorti, on s'est fait une prévise là, un peu, tout était devenu vachement plus cool. Ça y est, on a arrêté de desserrer les fesses et on a vu, putain, ouais, ça y est, ça marche, quoi. Et tout le monde s'est retourné vers nous, ils ont dit, ah ouais, mais putain, ouais, peut-être ça marche, en fait, il fallait peut-être faire ça.
Pas mal, quand même, votre truc.
Aussi, ouais, quoi, ouais. Ouais. Et c'est là que ça s'est un peu, que c'est un peu gonflé, quoi, les tontons.
Je sais pas si c'est en off ou au début de l'émission, on parlait d'Avatar, mais du coup, je pense que ça a aidé aussi. Il y a tu vois, je te disais tout à l'heure, ouais. C'est une imagerie qui a tout de suite à parler à plein de gens. Et je pense que ça a dû vous aider aussi à vendre le
jeu. Je pense.
Me dire, en fait, ça... vous voyez ça, nous.
Il ouais, y a eu Avatar, il y a eu Mandalorian.
Mandalorian,
aussi.
Ouais.
Les écrans en LED et tout, là.
C'était pile Mandalorian, hein. C'est ça qui était marrant, okay, parce qu'on a développé la méthode en même temps que les équipes de Mandalorian. Et Epic nous avait dit, on n'était pas 1000 équipes à essayer de faire ce machin. Pareil que, comme on disait, avec Avatar, on n'avait pas les mêmes moyens, on avait peut-être le même maillot, mais on n'avait pas.
Conception du truc, tu vois. Je vois bien les gens qui devaient même pas comprendre à l'époque qu'est-ce qu'ils me racontent. Ouais. Je vais voir les décors en 3D dans mon retour alors que je suis en train de filmer un gars sur un fond vert.
Mais d'un coup, ça prend des mois. C'est de la magie, le truc.
J'ai des anecdotes, c'est des sketchs. Hein. Ouais, des gars, on leur allumait des réals là, un peu vieux, là, on leur allumait la 3D, machin. C'était là, putain, ouais, ok, mais il est si grand que ça, le décor? Il se pensait comme ça. je disais, tu vois, on a fait un prolongation. Il disait, ok, bon, mais on va aller tourner là. Et il montrait dans l'image, bien sûr, tout au fond.
Le truc est à 2 km.
Je lui disais, mais mec, ça n'existe pas. Il regardait l'écran, il regardait comme ça. Et il disait, mais si, on va aller tourner là. Et je lui dis, mais non, il y a le mur, là.
Comme les grands-parents qui se disaient, comment est-ce que les speakerines à la télé, elles tiennent dans cette petite boîte.
C'est ça. Et franchement, oui, j'ai dû débattre une demi-heure en lui disant, non, on va pas aller tourner là.
Je comprends la logique, parce qu'intuitivement, tu pourrais te dire, bon, bah, ils ont juste à déplacer le décor dans la 3D. Et on laisse les acteurs où ils sont.
Enfin, parce qu'il
y a une logique finalement.
Il a un peu raison et c'était presque possible. Mais on revient au premier enjeu de notre série qui est une série industrielle. Si on ouvre la boîte de Pandore à tout le monde et on dit bah oui, on va te bouger tout et tout, là on est mort.
On peut le faire.
Il peut le faire. Mais en effet, mais quand même celle-là, elle était marrante parce que en vrai, c'est pas ça qu'il pensait, hein, lui. C'est juste, il voyait.
Il imaginait vraiment.
Mais putain, mais pourquoi je me laisse pas aller tourner là-bas alors que je le vois là? C'est dingue ce truc. Je suis le réel quand même.
Le mec, il paraît avec sa caméra.
Bon, prend le fond vert dans la gueule. Bref.
C'est vrai que ça, c'était assez marrant.
Il y a un sketch de François Pérusse, vraiment.
Bon, alors donc tu dis que Epic vous a aidé. Ils vous ont aidé comment? Ils ont développé des trucs, ils vous ont ouvert des vannes, ils vous ont. Si tu peux pas en parler, il n'y a pas de souci.
Parce qu'ils nous ont aidés sans nous aider, ils nous ont suivis aussi, ils nous ont. On avait quand même. Ils nous avaient filé un compte UDN à l'époque.
Donc UDN, c'est
Unreal Development Network là.
Ouais.
Donc qui nous permettait d'avoir accès un peu aux développeurs. Ça les intéressait beaucoup que qu'on challenge autant leur moteur. Donc ils nous répondaient aux questions et tout, ils étaient
Parce qu'ils faisaient déjà à partir de la 5, je crois, ou peut-être même avant, sur les dernières versions de la 4, ils faisaient déjà du projection mapping sur des. Enfin, ils pouvaient faire déjà du projection
la production virtuelle,
sur des monuments, des trucs comme ça. Ouais.
Mais bon, en vrai, ils ont, je pense, parce que l'équipe de Mandalorian devait demander à peu près les mêmes choses que nous, et je pense que c'est plutôt eux qui ont fait avancer les choses.
Mais
qui nous ont aidés, mais pareil, combien j'ai de fonctionnalités développées.
où on se dit, bah putain, ça marche pas, il faut développer le truc. Bon, bah allez, vas-y, on sait plus, plus.
Vous avez une équipe de dev aussi qui.
On a une petite équipe de dev, on est obligé quand on essaye d'inventer des méthodes comme ça. Et combien de fonctionnalités on a développées, paf, ça y est, ça commence à marcher. Deux semaines après, mise à jour Unreal, et paf, elle sort.
Je croyais que c'était paf, ça pète.
Non, non. Ça arrive.
Et combien de trucs qu'on a développé comme ça que et souvent c'était mieux développé que nous.
J'allais poser la question. Des fois quand c'est custom,
il y a deux trois qu'on a gardé. On s'est dit non, vas-y, on fait notre truc. Ça marche mieux. Ouais. Mais ça tient pas dans la durée parce que au bout de la sixième release là, ils ont pété la fonction et du coup ça marche plus les trucs. Mais
t'as deux trois exemples. Là on parle vraiment que d'outils de prévise du coup encore.
Ouais.
Dans Unreal, mais ça reste toujours.
Deux, trois exemples. La gestion des séquenceurs. Hein, la gestion des séquenceurs a été pensée vraiment en niveau quand nous, on devait raisonner en prise et en séquence. Tu vois, ça a été.
Mais moi, j'ai eu du mal à te suivre. Alors, il va falloir que tu expliques un peu plus, je pense. Bah, le séquenceur, les prises.
Donc, tu sais, quand tu fais un record dans Unreal, ça te record. C'était capable de faire que des cinématiques. Enfin, soit tu jouais en live. Soit ça faisait des cinématiques et les cinématiques tu pouvais les sortir, ça te sort une cinématique, mais t'as pas de concept de séquence, enfin de prise déjà, parce que quand nous on tourne en live,
tu fais plusieurs fois la même séquence, le même truc.
Et ça pour organiser les données, on avait besoin du concept de prise, du concept de changement de séquence. Or, le truc était fait pour faire des levels et à la limite un peu de cinématique.
Ah, mais oui, oui, oui.
Mais il n'y avait pas toute cette gestion du média et de la création du média. Et donc ça, voilà, ça, c'était un premier enjeu. Il y a eu l'enjeu de colo,
la
colorimétrie, ouais, pardon, qui était nécessaire. Nous, on devait faire sortir à Unreal du log de notre caméra.
Le log, pour ceux qui connaissent pas, c'est
le format brut de l'image, c'est-à-dire où là on va avoir la plus de profondeur de couleur et du coup, enfin, c'est pas très agréable à regarder une image log, c'est très flat, très plat, c'est presque en gris. Mais quand on applique ce qu'on appelle la lutte, ça va paf, on va retrouver toute cette dynamique de couleur et ça va être sympa et en plus on va pouvoir jouer un peu à régler les dynamiques justement de couleur.
Tu le fais dès l'imprévise ou c'est vraiment que pour Anthony justement ce genre de truc?
Eh ben ça, à l'époque, on le faisait que pour Anthony et déjà c'était une galère et maintenant on est capable de le faire et pour Anthony et l'imprévise.
Ça peut arriver que dès l'imprévise, vous commencez déjà à ajuster deux, trois trucs, à se mettre dans un ton quand même qui vous paraît être proche de l'image qui va être au final.
C'est-à-dire que maintenant, comme je le disais, maintenant il y a une vraie gestion colorimétrique dans Unreal qui est native. D'ailleurs, on utilise encore, c'est là où on se trouvait qu'on était un peu meilleur sur ça, on utilise encore une partie de nos outils quand même sur la colo que ceux d'Unreal, mais à l'époque, Unreal, il te sortait c'était quoi comme espace? Ça doit être.
C'était du Linear Rec 709, je crois.
C'était du Rec 709 de base, quoi. Donc, c'est-à-dire le format de base que normalement, c'est juste pour la diff, quoi. T'as pas toute cette profondeur de couleur nécessaire pour faire du compositing proprement. Et donc, ça, par exemple, la gestion de la colo, ça a été un vrai, vrai, vrai enjeu pour nous et pour avancer, ouais.
Parce que ça génère comme problème, c'est que ce que tu vas générer en 3D va être plus galère à intégrer.
C'est ça.
Dans tes prises de vue réelles.
Va être plus galère à intégrer d'une part et d'autre part va pas être étalonnable. Parce qu'il faut se rappeler que nous on fait des effets spéciaux, on n'est pas le bout de la chaîne. Après il reste quand même encore un gars qui va faire de l'étalon sur l'image. Et
ça se fait pas au compte du coup, il y a encore une étape derrière.
Il y a encore une étape d'étalon, c'est comme ça pour tous les VFX en général. Nous on relivre comme la source et donc la source c'est un élément qu'on dit raw, RAW, donc brut et donc qui est souvent log. Et du coup voilà, nous on doit livrer les effets spéciaux en log. Et à l'époque, Unreal n'était pas du tout fabriqué, enfin, n'était pas du tout fait pour, quoi.
Mais parce que ça, je pense que c'est des workflows qui sont hérités justement du principe même de la série. En fait, c'est après le compositing, en fait, après notre tâche à nous, ça passe, comme le disait Pim, par la phase d'étalonnage. Et tout ça, c'est sous couvert du directeur artistique. Et c'est lui, en fait, qui va venir donner les ambiances, etc.
Plus chaud, plus froid,
ouais,
plus
voilà,
machin,
c'est ça.
Plus vert,
qui va dire plus de saturation. saturation, plus de contraste. Nous, en fait, finalement, sur la série, le compo, ça se résume à dire on fait la meilleure intégration possible pour faire en sorte que que la 3D et la prise de vue réelle soient seamless, quoi, j'ai envie de dire, en tout cas qu'elles transitent naturellement, et aussi leur donner des masques, en fait, tout simplement, pour que eux ils puissent agir sur différentes zones, en fait. Vu qu'on est en 3D, on pourrait éventuellement leur sortir des cryptos, ce genre de choses, pour qu'ils aillent un peu étalonner à droite à gauche.
Alors, crypto, c'est cryptomat. Engage à écouter l'émission sur le compositing où on en avait parlé.
Et voilà, ça c'est des options qu'on a. Mais voilà, c'est que effectivement tout ce qui est colorimétrie, et juste pour revenir là-dessus d'ailleurs, en fait l'idée aussi dans le compositing, c'est de travailler dans un espace unitaire, de faire, puisque on parle de différentes sources là, on parle de prise de vue avec certaines caméras, et donc de la 3D qui est rendue dans certains espaces colorimétriques. Déjà la première étape, en fait, c'est de faire en sorte que ces sources soient dans des espaces cohérents. Ouais. Et quand on va pousser les niveaux d'une source ou d'une autre, l'idée c'est que si on applique une multiplication de x2 sur une source, il faut que, en fait, quand on fasse x2 sur l'autre, qu'elle soit 3D ou live, ça réagisse de la même manière. En fait,
le même
C'est en fait, il y a vraiment des histoires de mathématiques derrière, en fait. Et c'est ce que Pim m'expliquait. Alors moi, j'étais pas là au tout début, mais les enjeux de colorimétrie, c'est super complexe à gérer, d'autant plus dans des formats de quotidienne comme ça, qui demandent vraiment d'avoir une forme de cohérence globale, quoi.
C'est assez difficile à concevoir, je pense, pour quelqu'un qui connaît pas, mais si je vulgariserais à fond, c'est je te donne un bonbon et 10 bonbons, et tu, pour reprendre ton exemple du x2, et tu fais un x2 dessus, ouais. T'auras envie que les deux ils aient le même nombre de bonbons au final, sauf qu'il y en a un qui démarre tellement bas,
c'est ça,
que t'auras jamais un résultat équivalent des deux, tu vas en chier.
T'en bouffes neuf.
Voilà. Tu dégrades un, en fait, tu vas dégrader une image pour que les deux arrivent au même stade pour pouvoir les monter toutes les deux de la même manière. Ça pourrait être une solution.
Ouais, mais du coup, tu détruis un peu plus.
Mais du coup, c'est dégueulasse. Bah ouais, c'est moche.
C'est dégueulasse. Donc voilà, ça, c'est des enjeux un peu particuliers.
C'est forcément dégueu. Si tu manges 2-9 bonbons.
Et puis, le truc, c'est que sur cette série aussi, il n'y a pas que les effets spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tournages extérieurs aussi, hein, faut le rappeler, hein, parce qu'il n'y a pas que des fonds verts.
C'est pas que du tournage studio.
Deux équipes extérieures.
Et du coup, ces équipes-là ont leur workflow colorimétrique, etc. Donc nous, on est aussi obligés de se conformer aux exigences, en fait, vu qu'on parle d'espace colorimétrique.
Et c'est pas les mêmes caméras non plus. Si, ça va être les mêmes caméras.
Si, c'est les mêmes caméras.
D'accord.
Là, d'ailleurs, on vient de changer de caméra il y a un mois. Là,
vous faites en sorte d'avoir les mêmes cams pour tout le monde.
Ouais.
Ok, comme ça,
pour que justement, au niveau étalé, que ce soit la même image, la même source.
C'est ça. C'est important d'avoir une uniformité sur le programme. Si d'un coup, d'un plan à l'autre, d'une séquence à l'autre, on change.
Mais entre une caméra RED, une caméra ARRI, une caméra machin,
c'est pas les mêmes
réponses. Ça va pas être la même. Ça va être un peu plus vers les verts, un peu plus vers les.
Et du coup, il y aurait des enjeux d'harmonisation qui seraient complexes.
Même si l'étalo aussi est là pour ça, hein, parce que en vrai, on a deux modèles de caméras, presque trois, ça dépend des fois, mais voilà, souvent c'est toute la même gamme quand même. C'est juste qu'elles sont un peu plus légères certaines. Mais sinon, voilà, il faut une cohérence. Et même, il faut une cohérence aussi, encore une fois, un projet industriel, il faut une cohérence aussi dans le pipeline de technique. C'est-à-dire que, voilà, quand on fait l'ingest des rushs, si d'un coup, ça c'est en machin, ça c'est en truc, ça c'est
ça devient galère.
Ça, pareil, y a des réalisateurs qui ont essayé sur la série. Ah non, mais moi, j'ai ma caméra.
Ma favorite.
ça marche pas comme ça. On fait 260 épisodes, tu peux pas, sur ta partie, faire ton truc, quoi.
Là, par exemple, il y a une petite anecdote avec les dernières caméras qu'on a utilisées. Donc, en fait, c'est des caméras, ce qu'on appelle double ISO, qui ont des sensibilités différentes en fonction des niveaux de lumière. Alors, ce qui est assez étonnant, moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce système-là, mais en fonction de la base ISO qu'on va utiliser, donc en l'occurrence, soit une base 800 ISO, soit une base 3200 ISO, les luttes appliquées ne sont pas les mêmes. Le truc, c'est que ça, quand ça remonte dans un pipeline, il faut que ça remonte. Parce que si ça remonte pas, si on sait pas qu'est-ce qui a été filmé avec la 3200, qu'est-ce qui a été filmé avec la 800, quelle lutte on applique. Et là, ça devient un peu le souk.
Le lutte, c'est l'espace colorimétrique.
Pour faire simple, c'est le profil d'étalonnage. Lutte, c'est le lookup table. C'est une table de conversion de l'espace colorimétrique.
D'accord.
Voilà. On transforme le log vers quelque chose de regardable, en fait.
Okay. On essaiera de trouver un document qui vulgarise un peu ça, parce que ouais, c'est hyper intéressant. Nous, c'est complexe.
Regardez les publications d'Olivier Patron, ouais. Un très bon color scientist, hein, comme certains aiment l'appeler. Et Olivier Patron a produit pas mal de choses. Il a fait, voilà, il a aussi développé, c'est lui qui avait développé cet outil avec cet Enreal qui faisait de la gestion colorimétrique au début. Et c'est lui qui m'a aussi expliqué la colorimétrie. Et à un temps j'ai essayé de mettre ça sous le tapis, mais je me suis rendu compte que c'était impossible. Et c'est quelque chose, hein, la couleur, hein, la gestion de la couleur dans un workflow. C'est vrai que quand tu commences à discuter, tu comprends assez vite les enjeux. Et c'est vrai que, enfin, on s'en doute pas comme ça, quoi. Ouais, même moi, voilà, qui m'y suis mis un peu avec ces tontons truqueurs à faire des effets spéciaux, j'avais pas en tête que cette histoire de couleur c'était si important.
La palette de couleurs, la profondeur, etc. Non, il y a des choses.
Est-ce que tu voulais attaquer, on en est loin là,
On a quasiment une heure d'émission pour l'instant.
Ça me dérange pas si on parle un petit peu de Cara et d'animation, peut-être. J'essaye, on va voir. Vous avez toujours rien à dire, tu vois. Mais on a beaucoup parlé de décors et d'intégration, d'extension de décors, etc. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des gollums dans vos dans un si grand soleil?
Des gollums, non. Alors des Cara, on a fait. Alors nous, on a des figurants virtuels. C'est de la figuration virtuelle, hein, comme on aime bien dire. Tout y est passé. Toutes les méthodes de figuration.
Gestionnaire de foule, en fait.
Alors, mais voilà, c'est marrant. On est là pour raconter les histoires. Donc, comme je vous dis, voilà, on a tout essayé. C'est-à-dire que, au début, hein, la gestion de foule dans Unreal en temps réel, c'était quand même un peu le merdier. Et surtout, on ne savait pas vraiment faire aussi. Faut être honnête aussi avec ça. Et les personnages étaient quand même assez dégueux. Il faut aussi dire ça. Donc par exemple, on a commencé avec des spreadsheets, des sprites.
Oui, c'est
voilà,
ça que je veux
dire plutôt. Avec des sprites, des cards qu'on venait coller. Ouais. Donc on prenait comme des fonds verts, on en a des kilos ici. On filmait des petits gars sur des fonds verts en train de marcher avec des alphas et paf, on venait les coller. Donc ça a commencé comme ça, l'animation virtuelle, la figuration virtuelle chez nous. Mais petit à petit, voilà, on s'est un peu renforcé. On a commencé à faire des persos 3D. Les rendus Unreal se sont améliorés.
Ouais, parce que la techno aujourd'hui en anime, enfin, avec tous les trucs, surtout avec l'IA aujourd'hui encore plus, mais tous les motion matching et tout, il y a des trucs fous, quoi. Ah bah si, ça en fait partie.
On
fera une émission là-dessus.
Et du coup, petit à petit, voilà, on a développé nos méthodes 3D. On s'est aussi doté, pour d'autres raisons, mais d'un petit système de mocap. Donc, on a un petit système de mocap sur place qui nous permet aussi de capter nos animations. Donc, on a plusieurs pipes d'animation. On a de la gestion de foule un peu bourrin quand on fait des cartes très grandes, notamment quand il faut faire beaucoup de piétons là dans des environnements urbains. Là, on va plutôt utiliser des trucs un peu, procéduraux, en fait. Mm-hmm. Et de l'autre, de temps en temps, quand on se fait des animes un peu de luxe pour nous, on se dit, on se passe en mocap et on se crée nos propres animes. On a aussi, des fois, on se fait des animes de luxe avec de la banque d'animes. Du coup, c'est pas trop de luxe. Mais ça peut nous arriver.
Et c'est un truc que tu peux avoir dans ta prévise aussi? Tu veux mettre ton acteur dans une ambiance. Ah. T'es là, t'es dans une gare avec 500 personnes.
Alors, pour être honnête.
Et on est sur fond vert, avec deux murs.
Pour être honnête, on n'affiche pas tout. Ça dépend, mais on s'améliore parce que Unreal devient quand même un peu plus véloce. Nous, on n'en a pas parlé, mais notre soft en plateau, celui qui fait toutes les fameuses trois opérations que j'ai dictées au début. Avant, on était sur une solution américaine pendant des années. Hein, on vient juste de la lâcher, en fait, pour être honnête. Et on a développé notre propre outil. Et du coup, le premier outil des Américains, lui, il mangeait déjà presque la moitié des perfs de l'ordi. Mmh. Du coup, il en restait pas beaucoup pour le Unreal. Donc, c'est vrai qu'on devait couper toutes les animations. Sinon, toute la partie CG était laggy.
Ça ramait à mort.
Ça ramait à mort. l'histoire, donc donc on a enlevé tous les animes. Maintenant qu'on a notre soft, nous on l'a optimisé pour nos besoins. Unreal a beaucoup avancé et tout ça, donc c'est vrai que les animes commencent à revenir en temps réel. Néanmoins, ça bouffe de la perf, quoi. Parce quand on met des de l'anime de près un peu calé.
Oui, parce que vous tournez en 29,97 images par seconde ou 30 images par seconde.
25. On fait de la télé.
25. Ah, la télé c'est 25. C'est pour ça que je demande, parce que.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé une partie quand même qui est extrêmement importante des tontons truqueurs, parce que ce qu'on a dit là, la partie temps réel finalement, elle est chouette. Mais un technicien un peu sympa quand même, tout le monde peut le faire. Et c'est pas là où est le cœur technologique, comme j'aime bien dire, des tontons truqueurs. La vraie force, c'est notre pipeline de post-production.
Mmh. Ok.
Et c'est là où c'est là un peu notre trésor, je pense.
Précieux.
Précieux, exactement. C'est ce pipeline, parce que, comme on disait, ça reste de la prévisualisation. On vient de le redire, on l'a dit tout au long de l'émission, mais ce qu'on voit en plateau, c'est de la prévisualisation. Mmh. Donc, ce n'est pas l'image définitive, pour plein de raisons, on l'a dit, parce que le comp, il est bourrin, on fait avec le truc de la météo, le rendu, il est fatigué, parce que on a baissé les perfs, enfin, on a optimisé les perfs plutôt, pour avoir un rendu quand même temps réel. Ce qui fait que l'image, elle est pas dingue. Autant le track, il est bon, parce que ça, c'est toujours bon. Mais le rendu est pas terrible, le comp est un peu pourri.
Est-ce que le tracking peut en pâtir si ça rame d'ailleurs?
Ou est-ce non, que c'est parce qu'il avant... il est enregistré indépendamment.
Oui, donc c'est bon.
Donc okay. C'est bon. Okay. Mais voilà, l'image, elle est fatigose quand même. Du coup, si on donnait ça pour la télé, ça marchait pas. Et donc, c'est la vraie force, c'est notre pipeline, ce qui se passe après.
Mm-hmm.
Donc, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que c'est fini d'être shooté, donc on est toujours dans notre gros machin, parce qu'il y a toujours des épisodes tous les jours, et donc ça part au montage. Le montage monte.
Il reçoit les images. Reçoit les images. Alors, avec la prévise.
Avec la prévise.
Ah, c'est intéressant. Oh, putain, ok.
Mais ils enlèvent la prévise.
Alors,
il monte avec.
Laisse-le parler. Il
monte avec. Donc, déjà, confort de montage par rapport à avant, où la moitié des plans, quand on faisait ça, ils étaient en vert. Bah, là, fini. Ouais. Ils ont déjà une première idée de ce que ça va être. Déjà, petit gain. Eux, ils montent avec la prévise. Paf. Ils nous disent montage locked. Paf, ça part chez nous. Et c'est là que commence un peu la magie des tontons truqueurs.
Parce que le montage n'est pas fait chez vous.
Et non, nous, on fait des effets spéciaux. Nous, on ne fait pas le montage. C'est comme le décor, tu vois. Nous, on ne fait pas le décor.
Le montage est fait
chez France Télé, le producteur, quoi.
Ok. Et donc, ça revient chez vous, l'épisode monté.
Donc, ils montent.
Faire la post-prod.
Et là, ils nous disent, montage locked, c'est parti. Et là, c'est là où ça commence à être cool. Ils nous filent l'EDL.
L'EDL, ouais.
Donc, EDL Edition Decision List. Donc, en fait, quels plans vont être montés, dans quelle longueur,
dans lequel il y a toutes les infos de quel décor est dans ce plan-là, machin.
C'est en complément de nos metadata, parce que nous, on a des gens sur le plateau, comme on met ces trackers, tout ce bazar, le câble à la patte et tout ça. Du coup, il y a des gens qui enregistrent toutes les datas sur le plateau. Toutes ces datas sont compilées. On enregistre du coup toutes les datas de toutes les prises dans un grand machin. Quand eux, ils nous envoient le DL, là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le petit robot là, hop, il va rechercher toutes les métadatas de la bonne prise du bon jour. Automatiquement, il va allumer Unreal, reprendre toutes les datas, quel décor c'était, quelle ambiance lumineuse c'était, comment il l'avait réglé sur le plateau, rouvrir Unreal, régénérer le plan. Mais là, plus en temps réel, là, t'as le temps, mon gars. Pousse-toi le moteur, là, vas-y, prends ton temps, bourrine, fais un truc canon. En vrai, on est à 10 secondes la frame, hein, donc
quand même, ouais.
On est quand même loin des temps de rendu
précalculé,
quoi.
Hein. Précal,
oui. On reste à 10 secondes la frame, et je crois que c'est même plutôt 5, c'est 10, c'est sur les décors où il y a beaucoup d'animes, justement. C'est ça qui nous fait un peu, qui prend un peu plus de temps.
Ouais.
Mais nous, on est plutôt à 5 secondes la frame. Ça régénère toute la 3D en temps réel, pas en temps réel, du coup, ça régénère toute la 3D en haute qualité, comme on aime bien dire, et ça pré-comp. Là, ça repasse. Après, donc, ça sort de Unreal, ça rentre dans Nuke, ça vient slapper un peu violemment quand même sinon on n'aurait pas besoin d'eux.
A-t-il dit en pointant Anthony du doigt.
ça se slap violemment dans le verre et dans Nuke. Et là, le matin, les compeurs arrivent et trouvent tous les plans pré-compés avec la nouvelle plate qui est sortie de Unreal en full qualité. Et eux terminent avec leurs yeux d'artistes et d'artistes compositeurs le travail pour que ce soit
il
parfait.
Il te sort quoi comme format, là? Tu reçois de l'EXR
Alors, en fait, si tu veux, c'est là-dedans, tu as donc tout ce qui sort de la CG, c'est des séquences EXR.
Ouais.
Et en fait, ce qu'expliquait Pim, c'est que les datas, elles transitent vers, elles convergent vers un point Nuke
mm-hmm.
qui va récupérer donc le plan en log, donc le rush filmé.
Okay.
Y a un script qui a été préparé en amont, qui est relatif à chaque décor. Chaque décor a un peu sa spécificité. Donc, c'est des templates, en gros.
Mm-hmm.
C'est des templates. Et en source, ils viennent récupérer le rush, la séquence UXR associée à la bonne prise, ce qu'expliquait Pim, à la bonne caméra, voilà. Et aussi, un autre truc, c'est qu'au plateau, ils ont le contrôle du lighting des scènes. Et du coup, les datas de lighting remontent à Unreal. Et quand la nuit, ça tourne dans la farm pour rendre les séquences EXR, s'ils avaient dit « Ah ben, on fait une séquence de nuit », ça rend nuit. Et si ça avait été en jour, ça rend jour.
Ça
Donc
rend
en fait,
jour. Okay.
Tout, tu vois, tout est automatisé en fait. On est obligé parce que...
On vient dans cette logique, ouais.
On pourrait pas produire.
Et toutes ces infos ont été prises pendant le tournage.
Ouais, exactement.
C'est ça. Et en fait, c'est ça le vrai truc, le vrai tricks, c'est que en effet, toutes ces étapes qui sont normalement faites, on va dire dans des méthodes de VFX live action en post-production, à savoir le tracking caméra, le rendu 3D, le lighting du décor, tout ça a déjà été fait. Donc en fait, nous et même le pré-comp a été fait parce que comme tout est standardisé, tout est déjà posé. Du coup, les compeurs, ils n'ont qu'à... C'est un grand mot, parce que c'est...
Vous ne branlez rien, en fait.
Mais clairement, c'est... Mais ce qui est drôle, c'est que, tu vois, on récupère même... Bon, là, c'est moins le cas en ce moment, mais à une époque, on récupérait donc vraiment la caméra dans Nuke, et on avait un espace 3D de la scène, puisqu'en fait, on connaît le décor. On connaît les coordonnées de la géométrie. Et donc, finalement, quand tu te balades dans le viewport de Nuke, en fait, tu vois la petite caméra qui se balade avec une représentation sommaire du décor qui est filmé, donc c'est assez, c'est assez rigolo et ça permet éventuellement de projeter sur la géométrie si t'as besoin de clean certaines zones par exemple.
C'est non, j'avais posé une question con, je pense. C'est pas possible à cette étape de changer un peu le cadrage ou à un certain nombre de degrés max peut-être. Parce que t'as très vite une parallaxe.
Ça n'arrive pas du tout à faire ça.
Parce que c'est filmé et 2D quoi. Ouais, plat, donc ça se voit tout de suite.
Non, c'est pas.
Ou alors il faudrait une techno. Bah, typiquement, on parlait d'Avatar. Avatar 3, on fait ça. Ils ont des trucs de profondeur. Ils ont des caméras installées qui carrément te permettent d'avoir les infos de profondeur.
La Z, tu veux dire, la depth quoi.
Oui, et du coup,
c'est parce qu'en lidar.
Parce que dans les plans où ils ont des avatars qui jouent avec des humains, ils étaient obligés à certains moments d'avoir, pour rendre encore mieux l'effet de profondeur justement, de pouvoir à tout moment avoir ces infos de Z et tout. Et du coup, ça leur permet même des fois d'aller recadrer un peu, d'aller chercher des infos que tu aurais perdues dans du live normal.
C'est,
quoi.
C'est complexe parce qu'on a quand même toute une grosse partie d'avant-plan qui, elle, est vraiment réelle. Et en fait, si tu
Est imprimée sur ta péloche, entre guillemets.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Sur la vraie image.
Il y a des plans. Enfin, voilà, quand on est axé... Bon, là, je montre que le fond vert, par exemple, sur un truc où il n'y a que du vert, on peut te changer un endroit du décor, si tu veux. Mais pareil, après, et là, on retombe sur la logique industrielle. Si on commence à dire « Ah oui, on te change le truc. »
« Ah ben, c'est bon, on peut le faire. »«
Ah bon, on va changer sur celui-là, mais sur ce
on
plan. »
Donc, oui, on peut, mais
c'est
on
vrai
peut
que,
pas.
Mais il y a plein de trucs un peu comme ça.
C'est toujours pareil.
Il y a plein de trucs un peu comme ça qu'on est obligé. Et quand on a commencé, moi, je disais « Oui, on peut tout faire. » Et tout ça. Et tu te rends compte que tu ne peux pas leur dire ça parce que c'est impossible. Après, ça part vraiment. Par exemple, ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais quand on fera le tour après, mais quand on va sur nos décors, vous ne verrez jamais de vert. Il y a pas de vert dans nos décors.
De vert, un vert vert.
Du vert.
Du vert autre que le. Bah oui, ça normal, oui.
Ah ouais, sinon ça fait des trous quoi.
Pareil hein, quand je disais les batailles au début.
Tu dis ça, mais la réalité c'est que moi mon quotidien c'est quand même que tu vois quand t'as des surfaces réfléchissantes ça catch, enfin ça récupère la lumière, elle bounce quoi.
Elle rebondit
et donc forcément tu vas avoir certaines surfaces réfléchissantes qui vont récupérer un peu et donc là c'est là où ça devient un peu plus galère parce que.
Certes, dans, ça vient récupérer du verre.
Mais dans les années de pédagogie, pendant 3 ans, il fallait expliquer qu'on ne met pas de verre dans les décors.
Mais tu parlais de Miss Météo, mais c'est pareil. Les Miss Météo, elles n'étaient jamais ni en bleu ni en vert. Et elles avaient toujours des trucs.
Mais voilà, il faut savoir que les équipes tournent tout le temps ici. Donc, comme tu dis, c'est pendant 3 ans, il a fallu. Et avec les petits malins, genre, ah oui, mais le vert kaki, ce n'est pas du vert.
Tu m'as fait chier. Un jour,
Christian, il a pété un plomb. Un jour, il m'a dit, mais putain, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le vert? Il n'y a pas de vert, c'est pas de vert, c'est pas. Pas vert kaki, vert c'est pas de vert, pas de vert.
Turquoise. C'est non, vert canard, canard, taupe. C'est
mais
bon.
Je crois que la meuf est sortie. Et turquoise, c'est bon. Mais non, on t'a dit pas de vert, putain.
Et craque un bourre-pif.
C'était, ouais, exactement. Mais c'était, ouais, c'est... enfin, là, il s'était fâché tout rouge une fois avec une chef d'écho.
Et non, pas tout vert. Ouais, alors que Hulk est en vert, ça doit être vachement dur de filmer Hulk sur fond vert.
L'enfer.
Bon, bref. Alors.
Heureusement qu'il est fait en 3D, je crois.
Ah, ils l'ont foutu rouge maintenant. On arrive à une heure, bien plus d'une heure d'émission. On a encore plein de trucs à dire, j'ai plein de trucs à découvrir et encore plein de choses qu'on n'a pas abordées. Mais, le temps nous est imparti. Mm-hmm. On va quand même faire cette petite interview offset que j'avais préparée. Bah oui, on est chez les tontons truqueurs, donc forcément, bah je vais faire appel au tonton flingueur.
Oui, bien sûr.
Bah oui, évidemment. Je pouvais pas faire autrement. C'est un de mes films préférés en plus.
Je suis pas calé sur le sujet.
Aïe, aïe, aïe.
Alors, est-ce que Pim t'es calé un peu sur les répliques?
Moi, quand j'ai été engagé chez tonton truqueur, j'ai regardé 3 fois le film.
Si moi j'étais en AFC,
oh là là, seulement. Alors, dans votre carrière chez les tontons, qu'est-ce qui vous a préparé des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours? L'un et l'autre.
Oh, vas-y, je te laisse attaquer le sujet. J'ai besoin de réfléchir.
Ouais, bah là...
Allez, hop là.
Un truc.
des migraines, des nuits blanches. Non, mais faire comprendre ce qu'on fait. Bah, comme j'ai dit, ouais, la pédagogie, quoi. Bah, ça a été, c'était vraiment, parce que voilà, quand on développe une méthode un peu comme l'avait pensé Christian, qui sort un peu de l'ordinaire, c'est vrai que quand il faut avertir tout le monde, comme je vous ai dit, ça, c'était le début, là, quand il fallait vraiment expliquer à tout. Parce qu'on on cassait même les pieds au son. Enfin, pour vous dire,
Pas de son vert.
Mais pas loin, mais notre première techno, on mettait le track. Les Américains, ils avaient développé l'enregistrement du track, comme on disait, qui était indépendant. Du coup, c'est pas grave si Unreal lag.
Oui, d'accord, oui.
Parce que l'enregistrement du track est indépendant et on le faisait en son. Du coup, il nous fallait un canal réservé. On envoyait le son et des bip bip, des trucs assez horribles à écouter. Et du coup dedans, après on le passait dans une moulinette qui décodait et qui nous créait du coup toutes les coordonnées, les positions de la caméra par frame. Et du coup, enfin quand je vous dis on a cassé les pieds à tout le monde, c'est qu'on a cassé les pieds à tout le monde,
c'est fou.
Jusqu'au maquillage quoi. Enfin tout le monde a entendu parler des truqueurs et plein qui essayaient de nous mettre dehors. Mais voilà, en expliquant et pourquoi et comment et nan. Et c'est vrai que voilà, ouais, moi je pense que c'est toute cette pédagogie qu'il y avait à faire qui était compliquée quoi.
Vous leur avez montré qui c'est Raoul.
Et alors du coup, moi, pour répondre à ta question sur les nuits blanches, je crois que je vais faire une jolie transition. Il y a un sujet chez les tontons, ça s'appelle les nuits américaines. Ça fait faire les nuits blanches.
Ah, trop
pour le coup. On a le droit d'en parler ou comment ça se passe?
On a le droit d'en parler.
On peut y aller. En fait, là, depuis...
Vous allez tout savoir, les bipèdes.
Il y a un sujet là qui est un peu sur la table depuis environ 2 ans, je dirais, un truc comme ça, 1 an et demi. C'est d'essayer de convertir des prises de vue extérieures faites tournées de jour en nuit.
Ouais.
C'est un grand sujet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ce sujet dans l'histoire du cinéma. Et donc, on essaye de développer des méthodes.
Est-ce que c'est encore compliqué aujourd'hui?
Bien sûr.
Ah, moi, je pensais que c'était un truc qui avait été réglé.
Non. La lumière, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Et surtout, c'est. En fait, là, le travail de conversion de day to night, c'est quand même vraiment. Tout réimaginer. C'est-à-dire que...
La moindre
réverbération de la lumière, la moindre source de lumière, il va falloir allumer. Allumer, ça veut dire traquer.
Ah oui, parce que tu allumes genre des lampes, des trucs comme ça.
Qui n'existent pas, tu vois.
Oui, une lumière de portable, tu la vois la nuit, mais tu ne la vois pas le jour.
Ouais, c'est ça. Et puis contrer la lumière, tu vois, du jour, par exemple.
Ah oui, non, mais oui.
Qui est le soleil, c'est extrêmement puissant en termes de lumination. Donc, comment tu vas contrer la lumière du jour, tu vois, ça va faire. Par exemple, si tu filmes à midi, a priori, tu vas avoir beaucoup d'ombres qui vont être projetées sur le sol. La nuit, les ombres aussi marquées qu'à midi, ça n'existe pas.
C'est
donc
la pleine lune.
Il va falloir gommer. Ouais, non mais tu vois. Alors même du coup, ça, voilà, c'est ça. Tu vois, les fameuses rues américaines, c'est ça. C'est filmé dans le désert, le filtre bleu. Mais bon, on aimerait faire en sorte que ce soit pas le cliché non plus de la nuit américaine. Mm-hmm. Et donc ça, c'est un sujet qui est assez complexe. Donc, alors, on a exploré plein de pistes. Hein. On a essayé de faire les méthodes traditionnelles, de clean the plate, de gommer les ombres, de reprojeter des textures par-dessus. Mais ça sous-entend du tracking. Ouais. Ouais, mais c'est...
Après, oui, parce que pour la blague, hein, bien sûr, quand on est en studio, il n'y a pas besoin de faire de nuit américaine. On contrôle tout l'environnement, donc on peut faire la nuit. Donc, tous ces nuits américaines sont faites dehors, sans tracking. Et du coup, débrouillez-vous avec ça.
Là, c'est vraiment, pour le coup, le Far West. C'est, j'ai envie de dire, la bite, entre guillemets, le couteau. Quoi. Tu dois inventer toutes les informations de mouvement, etc., de réflexion, etc. Et voilà, au fur et à mesure de cet exercice, on a exploré différentes pistes. Je vais juste faire un petit crochet sur l'IA notamment.
Ah bah ça me titille les lèvres.
Voilà. Mais ça a été un peu. Là, on va dire que ça fait, je sais pas, VO, là, quand c'est sorti, c'était quoi, il y a un an et demi, là. C'était décembre 2024, je pense.
VO,
c'est quoi, ouais.
VO, c'est.
Ah, VO, oui, pardon.
Ouais, VO2,
c'est
je crois.
Google.
C'était.
Ouais, c'est l'IA de Google, l'IA générative de Google.
T'avais comment ça s'appelle déjà, Sam Altman, là, OpenAI, qui avait annoncé à l'époque, c'était quoi le premier algo qui faisait de l'IA générative en vidéo, là, déjà.
Tu l'as du vidéo to vidéo, là.
Ouais.
Ouais, je suis.
Mince, t'as déjà oublié ça.
Ouais, aussi,
ça va tellement vite.
Ouais, ça va trop vite.
Ah, putain.
Sora.
Oui,
c'est Sora. Sora. Et ça, quand. Oui, voilà, c'est ça, c'est déjà obsolète. C'était il y a un an.
Un an et demi, ouais.
Et bon, bref. Et donc, forcément, on s'est un peu intéressé à ça aussi pour essayer de générer, de prendre une vidéo et de lui dire, vas-y, fais-moi la nuit avec ça.
Bien sûr.
Mais bon, la réalité, c'est que nous, on a des comédiens qui sont identifiables et qui sont ils rigolent plus, mais on a des comédiens qui sont identifiables, que les gens connaissent.
Ça transformé tout le monde en chinois rouge qui font
c'est
peur.
Des cyborgs
ah ouais
ouais
ah mais c'est complètement à la masse
et
quoi.
Puis tu vois, on parlait d'espace colorimétrique, c'est pareil.
Je pense qu'il y a d'ailleurs des beaux dossiers remplis de footage dégueu.
C'est assez particulier, ouais. Et ouais, voilà.
Tout le temps, mais...
Ouais, c'est un sacré sujet. C'est un peu. On va dire que c'est une exploration constante, là. Mais.
Ouais, normal. En même temps, ça a l'air hyper compliqué. Enfin, il y a tellement de
c'est
détails.
Très complexe. C'est. Enfin, voilà, moi, sur ces sujets-là, je trouve que. Moi, je vais donner un peu mon avis, tu vois. Je pense que c'est intéressant, l'IA, ce que ça peut apporter en tant qu'outil.
Ah bah c'est pour ça que moi je suis d'accord. Enfin, quand je t'ai vu en parler, j'ai dit mais très bien, c'est un outil, il faut arrêter aussi de se voiler la face.
Non,
on en parlait beaucoup, bah forcément ça va faire un an et demi que dans tous les podcasts il est évoqué.
Oui.
C'est vrai que quand on n'est pas dans l'idée de vraiment générer une image from scratch et d'aller piller le travail des autres, c'est horrible.
C'est ça.
Par contre, si c'est un outil qui te permet de faire un truc que tu pouvais pas faire hier et qui te reste, c'est tes footage, tes data, tes trucs, bah ça va.
Mais
c'est un outil, quoi.
Finalement, nos métiers, je crois que ça a toujours été un peu ça. Moi, je me souviens au tout début, tu vois, genre le tracking facial, c'était galère, vois, machin. Et aujourd'hui, t'as plein d'outils qui assistent le tracking facial et on est content d'avoir des évolutions d'outils, en fait.
En général.
Complètement. Mmh. Et bon, donc finalement, moi, je le prends un peu comme un outil. En tout cas, moi, en tant que compeur, je le prends comme ça. Après, là, je parle de l'IA outil. Je parle pas forcément de l'IA générative.
C'est ça. Faut différencier les deux.
C'est ça.
Et puis, ça change pas le problème essentiel, qui est qu'au bout d'un moment, si tu voulais tourner nuit, fallait tourner nuit, coco, quoi.
Merci.
Parce que voilà.
C'est...
Ah non, mais oui. Non, mais voilà.
Projet industriel, les gars.
Ouais, voilà. Par contre, c'est facile à dire. On est d'accord.
C'est ça. Mais après, faut voir aussi les enjeux de qualité. Tu vois, c'est ça aussi que ça met sur la table, c'est qu'à un moment donné, parce que je sais pas à quel point je peux aller dans le truc, mais en gros, tu vois.
Vas-y.
L'année dernière, on avait des séquences sur les nuits américaines où on avait peut-être, je sais pas moi, en deux jours, il fallait faire 100 plans.
Mmh.
En trois jours.
Putain.
On était trois compeurs dessus. Sachant que la méthode, elle est quand même assez balbutiante, quoi. Mmh. À un moment donné, t'es forcément un peu dans un rythme assez effréné, quoi. Et même l'IA, elle t'aide pas, là. Enfin, je veux dire, elle peut assister par moment, tu vois, mais c'est pas.
Presque elle te ralentit, plus
presque. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, finalement, tu vois, il faut patcher derrière. Ouais, faut patcher, ça va générer des. Ça génère souvent des erreurs, etc.
Mais. T'es obligé de vérifier. Parce que le problème, c'est que c'est toi qui livres le truc au final.
C'est ça.
Donc ça va te retomber dessus si c'est dégueu et t'es obligé de vérifier chaque pixel de l'image.
C'est ça.
T'as pas le contrôle sur ce que tu fais.
Et puis même si c'est que de la télé, maintenant avec les écrans 4K, etc., par l'image, elle soit quand même nickel. Bah, c'est même plus des écrans cathodiques.
Enfin, il faut être honnête
réglé,
aussi. Hein, on a ce. Là, et sans. Anthony. Et c'est là où on n'était pas prêt quand on a commencé. Quand il a dit. Ce volume avec ce truc-là, on a sorti des plans dont on est. Pas très fier, mais comme je vous ai dit, c'est un peu ça aussi l'ADN des tontons, et c'est la chance de, c'est la chance aussi de notre relation avec notre producteur qui nous a racheté. Voilà, on n'a pas parlé de ça, mais de France Télé, tout ça, c'est que on s'autorise à sortir un peu des trucs des dingueries, mais c'est aussi une stratégie de sa part, de ce producteur Thomas Dematteis, de nous donner ces énormes challenges, de nous dire vas-y, on va avancer avec ces trucs là,
faites un peu de R&D,
c'est ça en fait, ça permet ça
et ça va sortir. Et moi, la première fois, il m'a dit vas-y, on va faire les nuées numériques, et alors j'ai dit ouais, moi j'étais chaud un peu, mais après quand il a commencé à dire ouais, mais par contre on met aucune contrainte aux équipes, là
oula, alors attends,
je suis tombé par terre, quoi. Et il m'a dit non mais si, ouais mon gars, on va faire ça, et je lui ai dit bon, mais ça va merder. Il me dit bah non mais ça va merder, mais comme au début là tu m'as dit ça va merder. Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui pourrait être, enfin qui peut être intéressante.
Et pour dire aux éditeurs, pour garder quelques épisodes, je sais plus les numéros, mais ça fait peur. on a fait des trucs avec Anto et avec d'autres, hein, parce qu'il y a pas que Anto qui a fait les nuits américaines. C'est des dingueries, enfin c'est dégueulasse, et c'est à la fois malheureux, mais à la fois c'est je pense que ça nous a fait avancer. On a trouvé.
Je suis assez d'accord avec ça, parce que en fait finalement ça nous a permis quand même de d'appréhender ces nouvelles technologies dans un cadre professionnel quand même si effectivement derrière la qualité, comme le disait Pim, n'était pas forcément au rendez-vous, mais en fait ça nous permet de mieux cerner comment on peut s'en servir efficacement, et c'est quoi les limites et c'est quoi les avantages, en fait.
Puis si s'il y a bien un endroit où tu peux faire ça, c'est sur de la série, justement.
Ouais,
260 épisodes, s'il y en a deux ou trois qui sont pas ouf, c'est ça. Dans un film,
on parle de deux trois séquences, tu vois, épisode,
c'est ça, faut remettre le plus en perspective.
Là où c'est malin, c'est que aujourd'hui nos nuits américaines sont de plus en plus canons. On a commencé à charter, notre spécialité dans la, on dit encore toujours projet
charter. Charter.
Mettre en place charts, quoi. Malgré le fait que Thomas il voulait que on puisse faire n'importe quoi et passer de jour à nuit, il a bien compris que c'était impossible, sinon on lui rendait du caca. Du coup on lui a dit si tu veux essayer d'avoir un peu moins de caca, quand même tu nous écoutes un peu sur comment on peut essayer de faire des trucs cool. Et du coup on a charté avec lui, machin, on a trouvé des guidelines. Maintenant il y a maintenant les nuits numériques, je pense que certaines elles sont pas forcément détectables.
Elles produisent un peu moins de nuits blanches.
En fait, ça s'adoucit, c'est parce qu'effectivement, là, on a mis en place une méthodologie de travail en fait qui est un peu plus carrée. C'est moins le Far West, on va dire. Maintenant, il y a littéralement un document qui fait de la pédagogie aux équipes de tournage.
On y revient toujours.
Pour justement leur expliquer qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui marche pas. Filmant contre jour, c'est une mauvaise idée. Pour plein de raisons.
Vous rendez pas compte. Il y a eu une des séquences, il nous avait mis le soleil, comme si on vous filmait là, tout est cramé derrière, il y a le soleil au milieu de vous deux. Et ils nous disent,
tu remplaces, tu mets une lune.
Quasiment, on vous voit pas, vous êtes en silhouette, quoi. Et ils nous disent, on va passer en nuit.
Là, c'est dur.
On l'a eu, hein, ça.
C'est complexe. C'est complexe. Mais du coup, voilà, à l'issue de toute cette phase un peu expérimentale, finalement, ça a aussi permis de faire de la pédagogie au sens large sur l'échelle de la production. Je pense aussi que, même, tu vois, les producteurs se sont rendus compte que peut-être que c'était encore précoce aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas. Probablement qu'un jour, on finira. Moi je pense même qu'un jour, on parlera même plus de 2D, de 3D. On va juste parler de génération d'images et on dira, ça, tu le fous derrière l'arbre, ça. Et ça va se passer un peu comme ça. J'ai la sensation. J'ai la sensation que c'est en train de partir comme
mais
ça.
C'est convaincu.
Après, c'est un grand débat, l'IA, mais. En tout cas, voilà, il y a quand même je trouve qu'il y a quand même malgré tout un aspect intéressant, quoi.
Un aspect de recherche.
Un aspect de recherche qui peut être intéressant. Ouais. Mais voilà, dans son côté outil, ça peut nous rajouter des cordes à notre arc, quoi.
Si ça peut enlever des nuits blanches, c'est bien aussi.
C'est pas mal aussi. Oui, oui. S'il vous plaît. Alors, parce qu'on parle, on parle. J'en fais une petite dernière. Ouais, continue, et puis après, on continuera sur le CG Beers. On ouvrira un petit peu. Parce que là, on parle, on s'assèche un peu.
Ah oui, il va falloir.
Qu'on a soif.
Hein, voilà. Pour l'anecdote, est-ce que vous avez quelqu'un qui vient de Montauban?
De Montauban?
Et non, je crois pas.
Les tontons flingueurs.
Ah, c'était
on devrait jamais quitter Montauban. Bah, vous regarderez le film, puis vous penserez à ça. Allez, sur cette bonne blague que nous sommes deux à avoir compris sur quatre.
Bon, ben voilà.
On vous laisse, les bipèdes. Merci infiniment, Pim, et merci infiniment, Anthony. Il y a encore plein de choses à dire que nous allons dire autour d'une bonne bière. Et puis merci à toi, mon petit Néo.
Bah merci mon doc, merci messieurs, c'était passionnant. C'est pour ça que ça a duré si longtemps. Désolé à tous nos auditeurs qui n'ont pas l'habitude que ça soit si long, mais c'était vraiment hyper passionnant. Et puis comme je leur ai dit avant, ils ont un peu défraîchi aussi le terrain du live qu'on a très peu fait dans cette émission.
Ouais.
Mais c'était vraiment vraiment passionnant. Et puis alors votre expérience avec Unreal forcément fait qu'aussi il y a un vrai lien avec tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Donc c'était génial.
Voilà. C'est top. Parce qu'on a fait une émission aussi sur Unreal.
J'en doute pas,
bien sûr. Oh, bon, ce sera pas la dernière.
Ce sera pas la dernière.
En tout cas, merci à vous aussi, les gars, de nous avoir accueillis, parce que c'est intéressant aussi pour nous de partager tout ça et c'est important.
Bon, merci beaucoup, c'était super chouette.
Avec grand plaisir.
Merci à vous, on se retrouve tout à l'heure pour les Patreon Bipèdes. Abonnez-vous, gros bisous.
Salut, ciao. Les Bipèdes, ciao.
Ciao.